I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump, and I approve this message.
USA 2020.
USA 2020.
Keep America great.
Europe Matin, le 7-9. Édition spéciale élection américaine.
Mathieu Béliard.
Depuis tôt ce matin, cette nuit, vous écoutez Europe 1 avec Sébastien Krebs notamment, et peut-être commencez-vous à le comprendre, si vous nous rejoignez, c'est incontestablement de la surprise. C'est serré, ce scrutin américain est serré. Au moment où je vous parle, non seulement il n'y a pas de vague bleue en faveur de Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, mais Donald Trump est en situation de créer une nouvelle fois la surprise. C'est extrêmement serré, je vous le disais, et je vais essayer de ne pas vous noyer dans les chiffres, dans l'immédiat. Comprenez bien que les États qui votent traditionnellement démocrates ont voté démocrate. Californie, Oregon, Massachusetts, en bleu sur la carte. Les États traditionnellement acquis aux républicains sont bien en rouge pour l'instant. Mais vous le savez, on attend les fameux swing states. Floride, c'est tombé pour Donald Trump. Caroline du Nord, Pennsylvanie par exemple. En Floride, c'est là qu'on comprend bien ce qui peut se passer. Trump serait en passe de gagner l'État, 400 000 voix d'écart. Si Biden l'emportait, c'en était fini de Trump. La nuit américaine était terminée. Sauf que Floride, Caroline du Nord, peut-être plus tard, sont autant de balles de match que l'actuel président américain sauve sur le fil. Autre exemple que je voudrais vous donner. L'Ohio, acquis à Donald Trump cette nuit. 18 grands électeurs seulement, mais notez bien ce petit fait historique. Depuis 104 ans, jamais l'Ohio n'a voté pour un autre que pour celui qui l'emportait à la fin. Jamais de l'histoire. Les Américains sont encore en train de compter les voix, de dépouiller les bulletins. Des États annoncent qu'il faudra plusieurs jours. On va rester extrêmement prudent. Évidemment, la tête froide, nous allons vous raconter cette élection. Avec nos envoyés spéciaux, ils sont à Washington, à New York, à Los Angeles, à Tampa, en Floride, à Wilmington, Delaware, au QG de Joe Biden. Avec nos experts, nos consultants pour décrypter le scrutin, pour comprendre la science électorale américaine, Yannick Mirer, politologue spécialiste des États-Unis, ici en studio avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
François Clémenceau, rédacteur en chef du service étranger du JDD depuis Washington. Roger Cohen, éditorialiste au New York Times depuis le Colorado. Nos invités aux États-Unis. Et notez bien sur Europe 1 ce matin, la première réaction européenne. On est au cœur des enjeux de ce vote pour ce qui nous concerne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour Mathieu. L'information pour nous, bien, c'est le froid. C'est le froid qui est arrivé soudainement. Moins 3 degrés en Sologne à l'heure où nous parlons. Moins 2 à Châteaudun, moins 1 à Angers, 0 à Orléans, 1 à Pontoise, 2 à Bourges, 3 à Rennes, Nantes et en banlieue parisienne, 4 à Lille-et-Camp, 7 à Strasbourg, 9 à Toulouse. J'ai craint ces températures car elles ont vraiment de l'importance. Nous avons perdu parfois 10 à 15 degrés en 48 heures. C'est vraiment spectaculaire. Le temps est dégagé. Nous avons pas mal de brouillard, bien sûr, mais ces brouillards vont s'échapper et nous aurons dans le courant de la journée, un ciel ensoleillé. Allez, sur les 4/5 de la France, un voile sur le Midi-Pyrénées, l'Auvergne et l'Alsace et quelques petites averses sur la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et la province PACA. Dans la journée, les températures se situeront entre 12 et 14 degrés. Voilà.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe 1 at the American election.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1 live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous confortablement ce matin à l'écoute d'Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 7h.
We believe we're on track to win this election.
Nous sommes en bonne voie pour gagner l'élection. Joe Biden, optimiste, le candidat démocrate, vient de prendre la parole alors que le scrutin s'annonce extrêmement serré. Nous serons d'abord avec Xavier Yvon à New York pour avoir une vision globale de la situation. Nous irons aussi en Floride, l'un des fameux États clés que vient de remporter Donald Trump. Nous verrons avec Benoît Clerc qu'un autre État crucial, l'Arizona, devrait passer chez les démocrates pour la première fois depuis 25 ans. On prendra du recul avec François Clémenceau. Les socles traditionnels de chaque candidat ont bougé. Et ça change la donne. Et puis, comment Emmanuel Macron a-t-il suivi cette nuit américaine ? Toutes les indiscrétions grâce à Louis de Ragnel.
Juste après ce journal, quel que soit le vainqueur aux États-Unis, l'urgence, c'est la relance. L'éclairage écho de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette. Et puis, en direct de New York, nous recevrons Léa Pizarre, ex-collaboratrice de Bill Clinton. Elle est en direct ce matin, son analyse au cœur du suspense. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Du bleu ou du rouge ? Donald Trump qui rempile ou Joe Biden qui arrive ? Pour l'instant, le suspense reste entier. Joe Biden est en tout cas le premier candidat à prendre la parole. C'était il y a quelques minutes depuis son fief de Wilmington dans le Delaware. On l'écoute.
We believe we're on track to win this election.
On pense qu'on va gagner cette élection. On savait qu'avec le record absolu de votes par correspondance, on allait devoir prendre du temps. Il va falloir être patient. Il va falloir attendre que tous les votes soient comptés. On a confiance. Mais on doit attendre encore. Mais on a confiance. On a gagné l'Arizona. Ce serait un changement incroyable. Il faut encore attendre, mais on pense avoir gagné la Pennsylvanie. Gardez l'espoir, les gars, on va l'emporter.
Joe Biden, il y a quelques minutes, depuis l'état du Delaware. Donald Trump, à l'instant, réplique du tac au tac sur Twitter, comme il en a l'habitude. Il accuse les démocrates d'essayer de voler l'élection, prédit une grande victoire, et il ne va pas tarder à s'exprimer à son tour.
Xavier Yvon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de New York. Les deux candidats pensent qu'ils peuvent encore gagner. Alors, en réalité, rien n'est joué. C'est bien plus serré qu'on ne pouvait l'imaginer.
Ah oui, ça, il y a une chose qui est sûre ce matin, là, il est 1h du matin ici sur la côte Est, c'est qu'il n'y aura pas la vague bleue dont rêvaient certains démocrates. C'est serré, c'est indécis. Sur CNN et sur les autres chaînes américaines, on nous répète, soyez patients, ça va venir. Pour l'instant, on ne sait pas qui est le prochain président des États-Unis. Il faut regarder la carte des États et la carte électorale victorieuse de 2016. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Alors, les États gagnés d'avance qui devaient tomber dans les escarcelles des candidats se sont colorés au fur et à mesure de la soirée en bleu démocrate et en rouge républicain, ça c'est bon. On a eu un premier swing state, le plus important, la Floride, avec 29 grands électeurs, qui a été attribué à Donald Trump. Il l'avait gagné en 2016. C'était indispensable pour lui de le gagner pour rester vivant dans cette élection. C'est fait. Joe Biden, lui, n'en avait pas forcément besoin. Maintenant, on regarde la Géorgie, où c'est assez incertain. Joe Biden vient de le dire dans son discours. Il a pas mal d'espoir sur l'Arizona. S'il arrivait à basculer l'Arizona, là, ce serait un premier État qui change de couleur par rapport à il y a 4 ans. On verra ça tout à l'heure avec Benoît Clerc. Mais même si Joe Biden prend l'Arizona, ça ne lui suffira pas s'il veut détrôner Donald Trump. On va donc revenir aux États. Nous parlons depuis des jours. C'est ceux du Midwest, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, où le décompte n'est pas du tout aussi avancé qu'ailleurs. Il y a par exemple des problèmes de machines dans le Wisconsin. Vous connaissez tous maintenant le chiffre magique, hein, c'est 270 grands électeurs. Eh bien, avec ce qui se passe en ce moment, il y a un des scénarios possibles, c'est qu'on arrive à une égalité parfaite, 269-269.
Oui, quand on disait que la nuit serait longue, c'était un euphémisme. Xavier Yvon, en direct de New York, et vous serez bien sûr au cœur de notre édition spéciale sur Europe 1 jusqu'à 9h.
Et je le souligne, Xavier Yvon le rappelait, ce résultat très important qui est tombé, celui de la Floride, c'est Donald Trump qui l'emporte.
Et Théo Manval, vous êtes en direct de Tampa, on entend derrière vous les supporters de Donald Trump. Le président capitalise donc sur deux états clés qui viennent de tomber dans son escarcelle, l'Ohio et surtout la Floride et ses 29 grands électeurs.
Oui, la Floride que ses équipes revendiquent en fait depuis plus de 2 heures maintenant. Et cette victoire effectivement dans l'Ohio en plus leur fait beaucoup de bien au moral à ses militants ici. Deuxième état clé majeur, vous le disiez, à tomber dans l'escarcelle. Et le résultat direct pour Jake des propositions du rival Joe Biden en matière d'environnement.
L'Ohio, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'ils sont très inquiets des coupes que veulent faire les démocrates dans l'industrie pétrolière, les interdictions de forage. Et vraiment, ça va être une élection très serrée. On le voit depuis le début de la nuit. Je regarde les chiffres, ça va être du 49 quelque chose contre 49 quelque chose.
Donc voilà, pas non plus de fanfaronnade pour ceux qui restent les yeux rivés devant les télévisions. Carlos, casquette rouge du président vissée sur la tête, en est même carrément à se ronger les ongles en regardant la carte des résultats s'actualiser.
Ah, c'est vraiment stressant. Je pense que Trump va s'en sortir, mais il va nous falloir d'autres états clés. Et là, je suis un peu inquiet pour la Caroline du Nord. Mais s'il arrive à la verrouiller, ses chances de rester à la Maison Blanche vont bondir d'un coup. Et on ne deviendra pas un pays socialiste.
Le socialisme, le communisme, vous le savez, c'est la menace hein, érigée par Donald Trump si jamais les démocrates l'emportaient. Suspense donc, mais pour se donner du courage, le bar où se sont retrouvées ses troupes ici passe son nouveau tube de fin de campagne dans ses meetings, YMCA, des Village People.
Voilà, la chanson fétiche de Donald Trump. Théo Manval, en direct de Floride.
On parle beaucoup des swing states, hein, ceux qui vont faire basculer l'élection. L'Arizona en fait partie.
Oui. Benoît Clerc, vous êtes vous à Los Angeles. Joe Biden l'a évoqué lors de sa prise de parole il y a quelques minutes. Il pourrait rafler cet État et ça serait une première depuis 25 ans.
Oui, avec le décompte des voix qui se poursuit en Arizona avec une tendance pro-Biden et dans les autres États de l'Ouest américain, le Nevada semble rester aux mains du Parti républicain, comme l'État de Washington qui ne semble pas vouloir non plus basculer, comme on le pensait, en faveur des démocrates. Mais une fois encore, le décompte de ces bulletins de vote par correspondance, beaucoup plus nombreux qu'en 2016, va prendre du temps et même si le scrutin est cette fois encore beaucoup plus serré que les prévisions données depuis des semaines, il va falloir attendre encore plusieurs heures avant de savoir qui sera le vainqueur de cette présidentielle 2020.
Patience, ce sera le maître mot. Benoît Clerc à Los Angeles.
7h07 sur Europe 1. Joe Biden, comme Donald Trump, se voit donc à la Maison-Blanche pour 4 ans. Ce sont les grands électeurs qui auront le dernier mot.
François Clémenceau, vous êtes à Washington. Bonjour.
Bonjour.
Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les socles électoraux de chaque candidat ont évolué. Hein.
Oui, c'est vraiment très intéressant d'une élection présidentielle sur à l'autre, de voir comme ça, en l'espace de moins de 4 ans, à quel point la démographie électorale a changé dans ce pays. La preuve, si vous voulez, c'est que Donald Trump, on le voit par exemple en Floride, arrive à mordre sur, vous savez, la fameuse coalition des minorités qu'avaient monté Barack Obama et Joe Biden, c'est-à-dire les latinos, les noirs, les jeunes, les femmes, en l'occurrence en Floride, les latinos, auprès duquel il réussit une meilleure performance, et à contrario, de voir comment Joe Biden arrive en Arizona, dans un État républicain depuis plus de 25 ans, à convaincre une partie des populations blanches dans les banlieues de voter pour lui. Et donc, c'est pas seulement la crise du Covid qui a fait évoluer les mentalités, c'est aussi le fait qu'il y a de nombreux États aux États-Unis, notamment dans le Sud et dans le Sud-Ouest, qui changent démographiquement au point de modifier la carte électorale.
Donald Trump prédit une grande victoire, hein, il l'a dit sur Twitter. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait la proclamer, cette victoire ?
Il devrait s'adresser en principe tout à l'heure aux Américains pour dire à peu près la même chose que ce qu'il a tweeté de façon un peu nerveuse, c'est-à-dire « je sens que je vais gagner, mais je vois que les démocrates sont en train de voler l'élection ». Il a utilisé le mot « voler ». Et ça, c'est un petit problème parce que ça prouve qu'il est très nerveux et qu'il est surtout très impatient. Or, tout le monde le sait, le décompte des voix qui va avoir lieu dans le Midwest, dans les trois États les plus importants, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, on ne les connaîtra pas avant la fin de la matinée, au mieux ce mercredi. Et donc, Donald Trump a du mal à pouvoir conserver cette patience nécessaire afin que toutes les voix soient comptées et qu'elles finissent par donner un vainqueur.
François Clémenceau à Washington, vous évoquiez ces termes de Donald Trump sur Twitter. On lui aurait volé l'élection. Twitter signale ce message à ses utilisateurs, ce qui est quand même un point très important à souligner.
Oui, potentiel fake news selon Twitter à voir dans une nuit électorale si c'est pas compliqué d'arbitrer les élégances ainsi. Je profite simplement de la présence de Yannick Mirreur qui nous accompagne ce matin pour cette émission spécial. Sur le décompte des voix, on attend quelques États encore qui sont plutôt sur le côté est des États-Unis. Qu'est-ce qui manque ? Ce sont les votes par correspondance ?
C'est principalement les votes par correspondance. Ils continueront à manquer d'ailleurs dans les heures, voire pour certains, dans certains cas, dans les jours qui viennent. Donc c'est extrêmement serré. Et si on observe le taux de dépouillement et les résultats en vote brut, on se dit qu'il y a encore quand même les jeux qui ne sont pas faits. Même si, bon, là ça on l'a déjà dit, il n'y aura pas de vague bleue et c'est beaucoup plus serré que prévu. Un des éléments, pour rebondir sur ce que vient de dire François Clémenceau aux États-Unis par exemple, sur les latinos, c'est que de notre point de vue, on a associé systématiquement, quasiment automatiquement, des minorités, ce sur quoi on pourrait commenter, à un vote démocrate. Or, on oublie une expression qui n'existe bien en France et que tout le monde comprend, être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que vous avez des latinos qui sont aux États-Unis plus américains que des américains de souche, en quelque sorte, et dont les priorités sont tout autres sur les questions sociales, qui sont plutôt conservateurs, et qui en revanche sont assez, disons, ont des attentes sur l'économie, sur certaines restrictions de l'immigration, par exemple, ce type de choses. Et donc, il y a un discours républicain qui résonne parfaitement bien chez eux, d'où, pour l'exemple de la Floride, à la surprise générale, une assise trumpienne qui se confirme cette fois-ci, et donc un vote latino qui n'est pas du tout acquis, contrairement à ce qu'on peut penser, aux démocrates. Chez les Noirs, c'est la même chose d'ailleurs. Sur... Et c'est
moins
la ligne de front est plus générationnelle.
Moins automatique,
exemple.
En tout cas, qu'on aurait absolument, pu le penser. Ouais. Yannick Mireur, je vous garde avec nous. On va vous retrouver tout au long de cette matinée spéciale sur Europe 1. En France, comment est-ce qu'on suit cette nuit américaine au plus haut niveau de l'État ?
Officiellement, Emmanuel Macron n'a pas pris position, hein, mais il suit évidemment cette présidentielle américaine de très près. Louis Dragnel, comment est-ce que le président s'est tenu informé depuis hier soir ?
Alors, sa principale source ce matin, c'est l'ambassadeur de France à Washington. C'est un homme qu'il connaît bien et en qui il a confiance, car vous savez, il s'appelle Philippe Etienne et il était son ancien Sherpa de 2017 à 2019. Vous savez, le Sherpa, c'est le chef de la cellule diplomatique à l'Élysée. Emmanuel Macron, qui s'entend très bien avec son ancien collaborateur, a donc toutes les informations directement par lui au téléphone. Cette proximité tombe plutôt bien car il y a aussi les canaux plus classiques via le Quai d'Orsay qui envoient des points de situation réguliers à la cellule diplomatique de l'Élysée toutes les deux heures, puis des points plus réguliers. Mais cette équipe de diplomates autour du président a connu de fortes tensions ces derniers temps et elle n'est pas très opérationnelle pour l'événement. D'ailleurs, vous savez, le conseiller du président en charge de l'Asie et des Amériques est en arrêt maladie. Et enfin, c'est important, comme la passation de pouvoir, s'il y en a une, entre l'actuel président et son possible successeur n'aura lieu qu'en janvier. Et bien pour cette raison aussi, Emmanuel Macron est vigilant car il sait qu'il devra, quoi qu'il arrive, continuer de travailler avec Donald Trump jusqu'au début de l'année 2021.
Les informations de Louis Dragnel, merci. Et à l'instant, on apprend que Donald Trump remporte l'État du Texas, bastion républicain disputé. Emmanuel Macron qui va présider ce matin un nouveau conseil de défense à l'Élysée autour de la crise du Covid. Selon nos informations, la question d'un couvre-feu en région parisienne sera bien abordée. Cette nuit, l'Assemblée a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre contre l'avis du gouvernement qui souhaitait aller jusqu'à la mi-février. L'attaque terroriste de Vienne a été revendiquée par l'État islamique. Bilan 4 morts et 7 blessés dans un état critique. Et puis le foot, la défaite de l'OM à Porto, 3-0, la 12e consécutive en Ligue des Champions.
Merci Hélène Zélani, il est 7h13.
Europe Matin, le 7-9. Édition spéciale élection américaine. Mathieu Béliard.
À l'heure américaine, ce matin, vous écoutez donc Le Monde Changé en direct, minute par minute, état par état, Biden-Trump, un match beaucoup plus serré que annoncé. À 7h40, David Michel, c'est un franco-américain élu démocrate du Connecticut. Nous le retrouverons en direct pour commenter ses premiers résultats, puis pour essayer de se projeter aussi, c'est difficile. Nos envoyés spéciaux, vous le savez, à Washington, à New York, en Floride, en Californie, au QG de Joe Biden dans le Delaware. Nos experts aussi, les enjeux de cette élection, l'éclairage éco de Nicolas Barré, l'urgence pour le vainqueur, c'est la relance. À tout de suite.
Europe 1.
Europe 1, inside the American election.
Édition spéciale présidentielle américaine.
7h16 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
L'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'un des grands défis de ce nouveau mandat, au-delà de la maîtrise de la pandémie, va être le redressement de l'économie américaine, que ce soit Biden ou Trump, hein, il faut bien le comprendre. Économie qui risque à court terme une rechute.
Exactement. Alors ça a été le sujet qui a dominé les discussions au Congrès au cours des dernières semaines de campagne. Républicains et démocrates n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie. C'est d'ailleurs une des raisons de la chute de Wall Street ces derniers jours. Lors de la première vague du virus, vous vous en souvenez, le Congrès avait voté un premier plan de relance de 2200 milliards de dollars, un plan qui s'était traduit notamment, c'était son côté le plus spectaculaire, le plus visible, par des chèques qui avaient été envoyés directement aux foyers américains pour soutenir la consommation. Et puis il y avait surtout eu des aides aux entreprises pour les aider à payer les salaires, à éviter, comme on l'a fait en Europe, un effondrement total de l'économie.
Et ça a marché ?
Ça a marché, oui, l'économie a tenu, elle a même rebondi de 7,4% au troisième trimestre. Le marché du travail a commencé à se reprendre. Le problème, c'est que beaucoup de ces aides prévues dans ce premier plan de relance arrivent à échéance, là, à la fin de l'année. Et sans de nouvelles mesures, l'économie américaine risque de replonger. D'où la nécessité donc d'un nouveau plan qui, pour être efficace, devrait être voté très vite. Il est question d'une enveloppe comprise entre 1600 et 2000 milliards de dollars. Il y a urgence parce que de nombreux secteurs comme le transport aérien ou la restauration sont exsangues. Le plan de soutien devrait aussi comporter des mesures pour reconstruire certaines infrastructures, des routes, des ponts et même des lignes de chemin de fer si Joe Biden est élu, ce qui n'est pas évident du tout.
L'autre grand dossier économique, ce sont les relations commerciales.
Oui, alors là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. Trump est un adepte des sanctions à l'égard de la Chine, de l'Union européenne, puisque l'acier, l'aluminium et toute une série d'autres produits comme les spiritueux ont été taxés. L'administration américaine, finalement, quelle que soit sa couleur, a toutes les chances de se montrer peu coopérative sur ces dossiers. La négociation d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne est toujours sur la table. Mais même sous une présidence plus favorable au dialogue, les Européens doivent s'attendre à un bras de fer. Les États-Unis ont un lourd déficit commercial. Il ne faut donc pas se faire d'illusions, quel que soit le vainqueur de cette élection. Ça n'incitera pas au compromis.
Merci Nicolas Barré, l'éclairage éco.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors 7h19, ce matin, pas de résultat, le suspense continue.
Oui, et c'est la frustration qui domine. Il faut attendre, c'est un supplice, on a perdu l'habitude. On n'en peut plus des commentaires, on veut des chiffres. Mais la Pennsylvanie dort et le devoir est accompli. Tous les 4 ans, on redécouvre donc que l'Amérique, c'est loin, que le système électoral est bizarre, que la seule chose prévisible, c'est la date du vote, le coup dément de la campagne et la passion qui saisit les Français.
Alors on ne voit pas la vague bleue attendue, hein.
Pas encore, pas encore. Tous les 4 ans, la machine électorale américaine ménage ses surprises. Ce matin, on se croirait de retour en l'an 2000. Rappelez-vous la confusion. On a cru Al Gore élu, puis George Bush. On a commencé à recompter les bulletins en Floride. La Cour suprême y a mis le holà et a tranché. C'était le 12 décembre, 5 semaines après le vote, que Bush l'a emporté. En fait, le recomptage a d'ailleurs montré que Al Gore aurait pu être président.
Oui, le cas est unique.
Mais il y a toujours, toujours une surprise. En 2008, l'élection de Barack Obama a été une illusion lyrique, un black à la Maison-Blanche, l'impensable qui arrive, l'Amérique en état de grâce et le monde qui reste baba devant son sourire ravageur. On lui a même donné le prix Nobel de la paix avant qu'il ait fait quoi que ce soit. 2008, c'était une révélation. 2016, c'est la révolution avec Donald Trump, la revanche de l'Amérique profonde sur l'État profond. Un bras d'honneur aux sondeurs, aux médias, au système, un coup de théâtre qu'ils ressentent comme un coup d'État. Et pendant 4 ans, Trump s'est employé à mériter le mépris dans lequel le tiennent les professionnels de la politique. Et en 2016, l'info continue à tourner à l'hystérie permanente. 2020 devait être sa répudiation, eh bien c'est raté, sa base résiste. Alors que les Républicains semblent en train de perdre le Sénat, Joe Biden a mené campagne sur le retour du bon vieux temps. La parenthèse qui se referme, le retour à la normalité, eh bien dans la frustration de ce matin, on sait au moins que ça n'arrivera pas.
Merci Vincent Hervouette. Et à 8h15 ce matin, sur Europe 1, la première réaction de l'Union européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk, 7h21. Vous restez bien sur Europe 1. À 7h30, nous serons en direct du Delaware, au QG de Joe Biden. C'est à la une. Mais dans un instant, direction New York pour cette matinale spéciale élection américaine. Scrutin très serré, on vous le raconte, on vous l'explique. On l'analyse aussi avec nos témoins. Léa Pizarre, en direct, pro-Biden, ancienne collaboratrice de Bill Clinton à la Maison-Blanche. A tout de suite.
Europe 1. Europe Matin, le 7-9.
Europe 1 live for the American elections.
Édition spéciale élection américaine.
Mathieu Béliard.
7h24 et nous sommes en direct des États-Unis avec Léa Pizarre, ancienne collaboratrice de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Bonjour Léa Pizarre.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Pro-Biden, on peut le souligner, démocrate. Sincèrement, 7h24 du matin, heure française. Quelle est l'ambiance à côté de vous?
L'ambiance est inquiète et on essaye d'être patient parce que ce n'est pas encore joué. On n'a pas encore tous les résultats. Il y a eu énormément de votes par anticipation et par courrier qui n'ont tout simplement pas encore été comptés.
Est-ce qu'il y a un instant, Léa Pizarre, on a l'impression, peut-être que c'est passé, je ne sais pas, vous allez me dire, mais dans cette nuit, il y a eu l'impression de revivre le même scénario qu'en 2016, celui de la surprise?
Pas celui de la surprise, parce qu'on a été tellement traumatisé par 2016 qu'on peut s'attendre à tout. Mais celui de cette angoisse où on ne sait pas comment ça va se dérouler. Je vais vous dire ce qui me gêne vraiment en ce moment. Ce n'est pas autant l'anticipation des résultats avérés que l'attitude de Donald Trump qui se met déjà à tweeter pour remettre en cause les résultats. Les votes n'ont même pas encore été comptés qu'il accuse les démocrates d'essayer de voler l'élection. Donc il prépare le terrain pour contester. On craint la violence. Dans la rue, à côté de chez moi, Plusieurs magasins ont cloisonné leurs vitrines aujourd'hui par peur de la violence. Et ce qui m'inquiète, c'est ce que Trump essaiera de fomenter s'il sent que la victoire lui échappe.
Mais les États-Unis, rappelons-le, sont une grande démocratie historique. Vous avez, permettez-moi, des institutions. Ces institutions, elles tiennent.
Pour l'instant, elles tiennent, mais M. Trump est très futé et il sait profiter d'un système qui est, après tout, fédéral. Donc, ça se joue dans les États, dans les 50 États individuels, notamment un État comme la Pennsylvanie, où il pourrait lancer toutes sortes de procès et de procédures avec l'ambition, je pense, d'aiguiller ce train vers la Cour suprême qui maintenant le favorise. Donc c'est là que l'élection pourrait se jouer et là, effectivement, il y a des dangers.
On s'attendait, Léa Pizarre, à cette heure-ci, à avoir un Donald Trump, allez, disons-le clairement, avoir un Donald Trump battu qui contesterait l'élection. C'est pas le scénario qui se dessine. Les notes d'espoir que vous aviez côté démocrate, je pense évidemment à la Floride, mais vous parliez de la Pennsylvanie, seuls 2/3 des bulletins ont été dépouillés, mais il y a une large avance encore pour Donald Trump au moment où on se parle. Il y a quand même de la déception côté démocrate. Là, il y a un sentiment de raté.
Il n'y a pas encore un sentiment de raté, il y a une déception, mais on ne croyait pas tous à une immense vague, vous savez. Je crois depuis le début à un Trump qui va contester. Donc on savait que ce serait probablement serré et surtout très très compliqué. Mais évidemment, on est totalement angoissé en regardant la carte et en ne comprenant pas à quoi elle ressemblera demain ou après-demain. Mais souvenez-vous aussi de 2018, les élections législatives de mi-mandat, où il y a eu ce qu'on appelle un mirage rouge. Rouge étant la couleur du Parti républicain. On a cru au début que les républicains avaient beaucoup gagné et au fur et à mesure que les bulletins ont été dépouillés, ça a penché de plus en plus vers les démocrates. On a un système très curieux et alambiqué aux États-Unis et il faut vraiment savoir attendre un peu.
J'ai confiance dans le système en studio ici avec oui. Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis. Simplement sur ce que dit Léa Pizarre à l'instant, on se berce d'illusions. Il y a un mirage rouge là sur le regard de Français sur cette carte électorale, par exemple.
Bon, c'est difficile de dire s'il y a un mirage rouge. Ce qui se dessine en revanche, même si là encore une fois il faut être forcément très prudent, c'est que parmi les scénarios qu'on avait envisagés, on avait beaucoup parlé d'une vague bleue. Bon, il fallait être prudent là-dessus. Maintenant, ça s'est corroboré. Il pouvait y avoir une nette victoire, une inclinaison assez forte pour M. Trump. C'est la tendance, mais encore une fois, elle n'est pas quand même très forte. Elle existe, elle est assez marquée, elle n'est pas très forte. Donc on est suspendu. Et donc c'est la pire chose qui semble se dessiner, c'est-à-dire celui où les choses sont équivoques. Peut-être pas s'avancer vers un 50-50 à 269 pour chacun, mais quelque chose d'extrêmement serré qui nous amène à des procédures et à la voie judiciaire.
La course aux 270, Léa Pizarre, d'un mot pour terminer. Vous êtes encore confiante au moment où on se parle ?
Je suis encore confiante dans la mesure où tout est encore possible tant que tous les votes n'ont pas été comptés.
Et nous allons garder la tête froide ici en particulier. Nous sommes dans un autre pays, rappelons-le. C'est pas notre science électorale, c'est pas notre culture d'élection, ce système de grands électeurs. La tête froide. Nous vous racontons cette élection. Léa Pizarre, ancienne collaboratrice de Bill Clinton à la Maison Blanche. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin sur Europe 1.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, beaucoup de gelée, Mathieu, nos amis le savent. Beaucoup de gelée ce matin, entre moins 3 et plus 7 degrés sur la plupart des régions de France. Il ne fait que 2 à 3 degrés en banlieue parisienne et moins 3 en Sologne, comme moins 2 à Châteaudun. Il y a également des brouillards givrants à Nevers, à Lançon, Châteauroux. C'est un vrai temps d'hiver qui s'est installé sur la moitié nord, mais c'est aussi une sorte de hamburger entre deux tranches de brume. Et bien, vous avez un gros morceau de soleil au milieu. Et ce gros morceau de soleil va apparaître vers 10 ou 11 heures. Et puis, des régions garderont leurs nuages, comme par exemple la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté ou la Provence-Côte d'Azur, un ciel voilé sur le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et l'Alsace. Dans la journée, les températures vont se situer entre 12 et 14 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9.
Spéciale présidentielle américaine. Mathieu Béliard.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Je suis très anxieuse, très très anxieuse. Je ne me souviens plus de quand j'ai été aussi anxieuse.
fébrile, cette supportrice de Joe Biden. Scrutin très serré, Donald Trump résiste beaucoup mieux qu'attendu, mais Biden reste en tête en nombre de grands électeurs. Nous serons au quartier général démocrate dès le début de ce journal. Donald Trump rafle la Floride, l'Ohio, le Texas à l'instant, mais rien n'est joué. Reste Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. Nous ferons le tour des résultats dans les états clés. Et puis les conséquences de l'issue du scrutin sur la scène internationale, elles seront nombreuses. Trump, Biden, quelle diplomatie ? Réponse avec Didier François.
Juste après ce journal, nous appelons un élu américain, franco-américain, David Michel, député démocrate du Connecticut. Il sera mon invité en direct avant de retrouver l'édito politique de Nicolas Bétou et Nicolas Canteloup en édition spéciale. Lui aussi. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Joe Biden, nous sommes sur la voie de la victoire. Donald Trump, je prédis une grande victoire. Déclaration et illustration de la tension entre les deux candidats qui se répondent du tac au tac. Scrutin très serré aux États-Unis. Résistance bien plus forte qu'attendue du président sortant. Mais pour l'heure, Joe Biden est toujours en tête en nombre de grands électeurs, même si ça se resserre. 223 contre 212. Il en faut 270 pour gagner.
La course aux 270. Et nous partons à Wilmington, dans le Delaware, quartier général de Joe Biden. Vous y êtes pour Europe 1, Lubna Anaki, aux côtés de supporter démocrate. Bonjour.
Bonjour.
On l'entendait dans le journal de 7h. Joe Biden vient de s'exprimer et il a revigoré ses fans.
Oui, il a fait un discours de quelques minutes dans lequel il a appelé à attendre que, je cite, tous les votes soient comptabilisés. Le candidat démocrate se dit également très confiant, même si on a senti un peu de prudence. Des déclarations accueillies par des klaxons, de quelques voitures encore présentes sur ce parking. Je le rappelle, l'événement de Joe Biden avait lieu en mode drive-in et les rares partisans à avoir patienté malgré le froid à l'extérieur du périmètre de sécurité étaient contents d'avoir pu apercevoir leur candidat. Ils ont salué son appel à la patience et disent être contents de le soutenir et d'avoir assisté à son discours.
Je voulais montrer mon soutien à Joe Biden et Kamala Harris. J'espère qu'il sera élu et qu'on pourra changer les choses.
Tout le monde connaît Joe Biden ici dans le Delaware, donc on se sent connecté à lui et on le connaît.
Alors Lubna, tout de même pour ses supporters, la nuit est longue, hein, ils ne s'attendaient pas à une telle résistance républicaine.
Oui, les démocrates espéraient notamment remporter la Floride. Cela aurait permis une victoire claire et plus facile. Ça aurait permis éventuellement de connaître le vainqueur plus rapidement. Certains partisans ici sur ce parking suivent en direct sur leur téléphone les résultats, les prévisions tombées au fur et à mesure. Dana et Jane Taylor sont venues du Maryland spécialement. Elles disent avoir peur de voir un scénario élection 2016 se répéter.
I'm worried. Je suis inquiète. Je sais qu'il est trop tôt pour être inquiet, mais bon...
Nervous. Je suis très anxieuse, très très anxieuse. Je ne me souviens plus de quand j'ai été aussi anxieuse. Il y a certains signes encourageants et d'autres inquiétants.
Alors malgré l'inquiétude et même si ça risque de prendre du temps, les partisans de Joe Biden disent garder espoir de le voir gagner, de voir celui que tout le monde ici appelle tout simplement Joe devenir président.
Lubna Anaki en direct de Wilmington dans le Delaware avec les supporters de Joe Biden.
On va maintenant retrouver Xavier Yvon, correspondant Europe 1, en direct de New York. Vous centralisez, Xavier, pour nous, toutes les tendances.
Alors, au décompte des grands électeurs, on le disait, Biden est en tête, hein, 223 contre 212. Mais on sait que ce qui compte, Xavier, ce sont les états clés. Dites-nous, à 7h34 précisément, on en est où dans ces états ?
Eh ben, on n'en est pas très avancé. En fait, à 7h justement avancée de la nuit ici, il est 1h34 du matin côte est. Le seul état pivot qui a livré son verdict, vous l'avez entendu, c'est la Floride. Donald Trump conserve le plus fameux des swing states avec ses 29 grands électeurs. C'était vital pour lui, c'est fait. L'Arizona est sur le point de basculer pour Joe Biden. Ce serait le premier swing state à changer de camp par rapport à il y a 4 ans et ce serait une première bonne nouvelle de la nuit pour les démocrates. Il reste la Caroline du Nord qui penche plutôt vers Trump, la Géorgie qu'on n'attendait pas aussi serrée et puis surtout les trois états de la Rust Belt qui ont porté Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Et là, ça se complique parce que les décomptes vont prendre beaucoup plus de temps avec les votes par correspondance. Donc, vous voyez, tout reste possible et il va falloir être patient.
Xavier Yvon, direct de New York pour Europe 1 avec nous depuis 6 heures dans ce studio. Yannick Mirer, politologue spécialiste des États-Unis. Alors, on vient d'entendre Xavier Yvon sur des états clés comme la Pennsylvanie. On le rappelle, en jeu majeur, 20 grands électeurs. On pourrait avoir le résultat en fin de journée seulement, voire dans plusieurs jours, ça pourrait être long.
Long, ça veut dire quoi ? Pardonnez-moi, je me permets, on n'arrête pas de dire ça depuis ce matin. Ça veut dire quoi, long ? Pourquoi c'est long ? Les Américains, ils ont voté.
Oui, mais parce que vous savez que pour ce qui est du dépouillement, et en particulier pour le vote par correspondance, les lois électorales sont les lois des États, ils n'ont pas les mêmes. Et certains obligent, par exemple, les États à arrêter le dépouillement le jour de l'élection, c'est-à-dire cette nuit, et d'autres ont beaucoup plus de temps pour le faire. Donc il faut évidemment attendre que tout ceci soit assaini. Ce qu'on peut en revanche d'ores et déjà dire, vous l'avez entendu depuis 6 heures du matin, c'est qu'il y a une énorme déception du côté démocrate, parce qu'on avait parié, peut-être en s'illusionnant, qu'il pouvait y avoir une vague bleue. Elle était douteuse, maintenant on pouvait toujours y penser. Elle permet d'observer qu'il y a quand même un grand décalage, et les résultats le montrent, un énorme décalage même, entre les préoccupations, je pense, d'une grande majorité silencieuse, et celles des spécialistes comme vous et moi, des journalistes, des gens qui s'intéressent à la politique, des électeurs américains, sans parler de ceux qui ne vont même pas voter. Leurs préoccupations et les lignes de front ne sont pas du tout les mêmes. Et donc voilà pourquoi nous sommes un petit peu surpris, au fond, de cette persistance, de cette force du vote Trump, qui n'est pas tellement un vote républicain. Je pense que c'est sa personnalité, avec ses défauts et ses qualités aussi, et qui résiste beaucoup. Il faut dire, pour terminer, que évidemment tout est relatif et que son opposant, Joe Biden, est un petit peu amorti et manque de tonus. Alors que, au contraire, Donald Trump, sans plus, à bientôt 75 ans, se ragaillardir à mesure qu'il est dans la bataille.
Alors, il y a moins d'une heure, hein, Joe Biden a pris la parole. Nous sommes en bonne voie de gagner, disait-il. J'ai pensé en entendant Lubna Anaki dans le Delaware à l'instant. Là. Pourquoi est-ce qu'il a pris la parole, Joe Biden ?
Alors, c'est une question que je me pose depuis tout à l'heure, et je veux dire qu'elle abonde dans ce que je viens de vous dire, c'est que j'attendais de savoir ce qu'il allait dire. C'était assez mou, hein, quand même. Joe Biden, c'est toujours pareil, il passe et puis on l'a pas vu passer. Si victoire il y a, car ça n'est quand même pas du tout exclu, elle sera au fond comme ce coronavirus nous l'impose, c'est-à-dire confinée. c'est les résultats qui comptent quand même. Et donc je m'interroge en effet de savoir pourquoi il est intervenu pour dire ce qu'il a dit, parce que il a dit clairement que dans les États où la tendance est quand même pas très favorable, si on regarde les chiffres pour l'instant, il est confiant. Donc au moins ça maintient l'espoir, mais est-ce que c'est peut-être aussi un appel du désespoir, c'est difficile à dire, ça confirme en tous les cas, disons, de mon point de vue, la déception. Pour l'instant, le vol est suspendu quand même. Côté démocrate.
On va en parler juste après ce journal, justement. Yannick Mirror, politologue, spécialiste des États-Unis et fondateur de la revue Politique américaine, qui nous accompagne tout au long de cette matinée.
Voyons maintenant les répercussions de ce scrutin sur la scène internationale. Bonjour Didier François.
Bonjour.
Donald Trump a sa façon bien particulière de faire passer les messages à la communauté mondiale. Alors, s'il l'emporte, on repart pour 4 ans d'incertitude ?
Tout à fait, hein, puisqu'en matière de politique étrangère, ce qui a été très caractéristique du mandat précédent, c'est cette façon dont Donald Trump court-circuite systématiquement les canaux de la diplomatie américaine pour finalement ne suivre que ses intuitions. On peut multiplier les exemples, hein, retrait de l'accord de Paris sur le climat, dénonciation du protocole de désarmement nucléaire avec l'Iran, abandon des Kurdes en Syrie, ouverture de négociations avec les talibans en Afghanistan et puis rencontre au sommet avec Kim Jong-il en Corée du Nord. Tous ces revirements stratégiques majeurs ont été décidés de manière unilatérale, sans consulter le moins du monde les partenaires ou les alliés de l'Amérique qui les ont souvent découverts à la lecture d'un simple tweet en pleine nuit. Eh bien, s'il est réélu, cette tendance va s'accentuer parce que le président Trump s'est maintenant débarrassé de tous ses conseillers diplomatiques et militaires les plus proches, et donc il est plus que jamais imprévisible.
Et si Joe Biden entre à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui va changer ?
Alors, si c'est Joe Biden, il y aura forcément un changement de ton. On va retrouver une Maison-Blanche moins brutale, plus à l'écoute de ses alliés, qui va chercher à consolider ses coalitions, mais ne vous faites strictement aucune illusion. Son boulot, ça sera de défendre les intérêts des Américains. Or, leurs mentalités ont profondément évolué, tout comme d'ailleurs ont évolué les rapports de force internationaux. Les enjeux stratégiques de Washington ont clairement basculé de l'Europe vers le Pacifique, avec ce bras de fer engagé contre la Chine pour la domination du monde, qui va durablement structurer la politique étrangère des États-Unis, y compris celle de Joe Biden.
Les explications signées Didier François.
L'élection présidentielle américaine, vous la vivez minute par minute, état par état sur Europe 1, matinée spéciale.
Le reste de l'actualité avec encore les indicateurs inquiétants du coronavirus en France. Près de 3900 malades désormais en réanimation, 430 nouveaux décès en 24 heures. Et puis en Autriche, le chancelier Sébastien Kurz appelle les dirigeants européens à s'unir et à agir contre l'islam politique. L'Autriche frappée pour la première fois par le terrorisme avant-hier. 4 morts à Vienne lors de fusillades, actes revendiqués par l'État islamique.
Merci Jérôme Lacroix, 7h39.
Europe Matin, le 7-9. Édition spéciale élection américaine. Mathieu Béliard.
Et attention, Didier François faisait bien de le rappeler. Ne nous trompons pas sur les enjeux de ce scrutin. Les Américains se choisissent un président. Ils ne choisissent pas le président du monde. Cela dit, il y a des enjeux qui nous concernent directement. Et la première réaction européenne, ce sera sur Europe 1 ce matin avec Thierry Breton, commissaire au marché intérieur. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Et il y a des choses importantes à voir justement sur une éventuelle transition Trump-Biden. Trump pour 4 ans de plus. Nous verrons tout de suite direction les États-Unis, le Connecticut plus précisément, avec le député démocrate David Michel. Il est mon invité dans une minute, c'est un franco-américain. A tout de suite.
Europe 1.
Europe 1, inside the American election.
Édition spéciale présidentielle américaine.
7h43 sur Europe 1, direction le Connecticut. Bonjour David Michel.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en direct avec nous, le Connecticut à Stamford. Vous êtes élu local de cet état de l'Est américain, élu démocrate. Comment se déroule la nuit? Il est presque 2h du matin pour vous. De la déception, j'imagine, quand on est démocrate, au vu des premiers résultats.
Oui, alors c'est un peu tôt. Par exemple, l'état du Connecticut, dans mon district en particulier, dans d'autres qui sont voisins, on attend toujours les résultats des absentee ballots. Donc, on espère avoir les résultats vote par correspondance d'ici jusqu'à 2 jours, ce qui est quand même assez incroyable. Dans notre état, ils n'ont pas commencé de compter avant aujourd'hui. Donc, effectivement, je crois qu'ils ont à peu près 23 000, dans la ville de Stamford, par exemple, ils ont à peu près 23 000 votes par correspondance. Ils en ont compté 13 000 aujourd'hui et encore 10 000 à compter demain.
Dans certains états, ça déterminera le résultat. On attend, on explique ces votes par correspondance, les votes anticipés, la complexité de ce vote américain et du winner takes all. Quand on a remporté un état, on envoie tous les grands électeurs de cet état pour la très grande majorité de ces états. Simplement, vous l'élu démocrate, vous avez conscience là ce matin que quel que soit le gagnant finalement entre Trump et Biden, il va récupérer un pays profondément divisé.
Oui, effectivement, la division est malheureusement très profonde. Je pense que depuis que je vis dans ce pays, ce qui fait plus de 30 ans, je pense que j'ai jamais vu ce genre de division. C'est assez incroyable.
Je précise aussi, par exemple, dans les votes qui ont déjà été comptés, que 62 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Et j'aimerais profiter de votre double nationalité, David Michel. Vous êtes élu américain, mais vous êtes né en France, à Nevers. Vous êtes franco-américain. Et on a parfois du mal à lire un scrutin américain de ce côté de l'Atlantique. Beaucoup de Français, ce matin, se réveillent avec Europe 1 et ne comprennent pas, avec tout ce qu'on a pu dire sur Donald Trump, avec tout ce qui a pu se passer, comment est-il possible que ce scrutin soit serré?
Voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, la première chose, c'est que pour cette élection, je pense comprendre qu'il y a quand même plus de républicains qui sont venus voter. On va attendre quand même les résultats demain, après-demain, jusqu'à la fin de la semaine. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de voteurs du côté républicain, d'électeurs, pardon, du côté républicain, que d'habitude, que dans une autre élection présidentielle, je pense.
Et si on le prend, je reprends ce que vous êtes en train de dire, je le reprends à l'envers, pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a aussi des électeurs qui ne se sont pas déplacés pour Biden là où on les attendait. On a beaucoup parlé du vote afro-américain, on a beaucoup parlé de certains votes anti-Trump qui pourraient se mobiliser. Ça n'a pas été tant le cas que ça.
Non, mais encore une fois, par exemple, la Floride, ils ont compté déjà leur vote par correspondance. Ils les comptent avant. Nous, on n'a pas encore ouvert, mais on n'est pas un État qui porte à conséquence parce qu'on est on est déjà une victoire pour Biden. Mais il y a quand même des questions sur la Pennsylvanie, même si c'est pour l'instant à tendance républicaine. Il y a, je pense, des grosses quantités de votes par correspondance qui n'ont pas été comptés. Donc, est-ce qu'en Pennsylvanie, les votes par correspondance seront une aussi large majorité démocrate qu'en Connecticut? Peut-être pas. Mais on s'attend quand même à ce qu'une majorité des votes par correspondance soient démocrates. Alors, est-ce que ça donne faux espoir? Peut-être. Je pense que ça va se jouer certainement sur la Pennsylvanie. C'est quand même 20...
Oui, on attend effectivement les résultats de la Pennsylvanie. Pour finir votre phrase, ce sont 20 grands électeurs du côté de la Pennsylvanie. Yannick Mireur, politologue, spécialiste des US, est en studio avec nous. Yannick.
Oui, bonjour. J'entends vos commentaires. Il me semble, ceci étant dit, que on voit l'écart se resserrer sur certains États, comme la Géorgie, le Wisconsin. On voit la tendance pro-Biden se maintenir confortablement en Arizona. Pour la Pennsylvanie, qui est plus importante que cela, parce que c'est 20 grands électeurs, l'écart me paraît, avec 700 000 voix d'écart et un dépouillement qui frise les 80%, irrattrapable. Donc il semble bien que cette tendance soit,
tendance de
clairement rouge, républicaine, en Pennsylvanie.
Oui, alors juste pour quand même vous expliquer ma situation, c'est que je suis rentré il n'y a pas longtemps. On n'a pas vraiment suivi durant la journée. J'ai 5 bureaux de vote, donc j'ai été.
Il n'y a aucun problème. Vous étiez sur le terrain, David Michel. Que vous disent les gens sur le terrain, justement? Oui. Alors, du côté du Connecticut, traditionnellement, on envoie du grand électeur démocrate, hein, du côté du Connecticut. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit sur le terrain, dans les bureaux de vote aujourd'hui? Les gens se sont peut-être mobilisés plus que d'habitude. C'est ce que l'on semble voir.
Alors, on a eu des files d'attente en dehors des bulletins de vote qu'on n'a jamais vus. J'ai filmé la file au premier bureau de vote où je suis allé ce matin à 5h30 du matin. Et c'était incroyable. C'était 1h30 d'attente. Et bon, après, ça s'est réduit à 1h. Et au temps de midi, on était encore à peu près 1h45 d'attente. Et en début d'après-midi, ça a commencé à chuter. En général, dans nos bureaux de vote, on voit une autre montée de... une vague d'électeurs venir vers les 5h de l'après-midi. Aujourd'hui, on ne l'a pas eu. À 5h, c'est ça. Bon, après ça, il faut comprendre que la plupart des gens travaillent de chez eux, donc plutôt que de travailler du bureau. Donc, ils sont effectivement plus proches du bureau de vote, et probablement, on pense que la majorité des gens sont venus voter le matin, plutôt que le matin avant d'aller au travail, et le soir en revenant du travail.
David Michel, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes, on est au cœur de la nuit, hein, pour vous, sur les États-Unis, du côté du Connecticut, quasiment 2h du matin, chez vous, 7h49 en France, député démocrate du Connecticut, franco-américain, son regard dans cette édition spéciale. 7h49 à suivre, l'édito politique de Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Spéciale présidentielle américaine, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
C'est la surprise. Ce sera très serré entre Joe Biden et Donald Trump.
Oui, et si cette surprise Trump se confirme, les Français vont pousser un grand soupir de désolation. Un sondage Odoxa a récemment indiqué que 82% des Français, s'ils avaient pu voter, auraient glissé un bulletin Biden dans l'urne. Une étude BVA révèle même qu'ils auraient été 9% seulement à voter Trump. C'est simple. Le président sortant a toujours été foncièrement impopulaire en France. Et comme notre pays a une légère propension à considérer qu'il sait ce qui est bon pour les autres, eh bien nous avons eu collectivement tendance à croire depuis 4 ans que cet invraisemblable président était en fait illégitime, même si... Petit détail, il avait été bel et bien élu démocratiquement.
Et qu'il peut donc encore être réélu.
Oui, ce serait bien sûr une énorme surprise, mais c'est probablement que nous n'avons pas vu que Trump n'était pas un accident de l'histoire de la démocratie, mais le produit de ce qu'est devenu une partie de l'Amérique profonde. Ce pays conservateur, protectionniste, centré sur lui-même et hostile en partie à cette mondialisation dont il détient pourtant quelques-uns des plus beaux fleurons.
En tout cas, si c'était Joe Biden, il serait d'emblée apprécié.
Oui, mais là encore, attention, si sa personnalité est effectivement l'exact contraire de celle de Donald Trump, sa politique ne s'annonce pas dans tous les domaines comme l'exact inverse de celle des républicains. Et il ne faut pas croire que la relation entre nos deux pays se serait d'un seul coup transformée en honeymoon,
en lune de miel.
A priori, ce sont d'ailleurs les Allemands qui ont le plus à gagner avec l'arrivée d'un nouveau locataire à la Maison-Blanche. Trump ne supporte pas Angela Merkel, ce qui a laissé depuis 3 ans un petit espace à Emmanuel Macron dans sa relation avec le président américain.
On pourrait donc avoir une petite carte à jouer.
Petite, oui, bien sûr, mais surtout... pas d'angélisme. Le premier mandat de Trump a imposé un changement de regard de tout Washington sur la Chine, par exemple. De ce point de vue, rien ne sera plus comme avant. Et si les relations avec Pékin restent hostiles, celles avec l'Europe resteront elles aussi distantes parce que l'Amérique désormais ne croit plus au multilatéralisme. C'est la même chose pour les échanges commerciaux. Quel que soit le vainqueur, on peut espérer que les agressions caractérisées cesseront un jour. Mais sur le fond, tous les États-Unis, républicains comme démocrates, ont changé depuis 4 ans. Ils sont désormais d'humeur protectionniste. Bon, c'est un fait, nous n'avons probablement pas perçu ce qu'était devenu l'Amérique depuis quelques années, et nous n'avons pas compris que derrière l'homme caricatural qu'est Trump, et qu'on a adoré détester, c'est toute la sociologie du pays qui avait muté. Vous savez, il faut toujours se méfier des parallèles ou des comparaisons trop hâtives, mais je serais un homme ou une femme politique en train de réfléchir à l'élection de 2022, je regarderai en grand détail ce qui a conduit à cette surprise incroyable qui ce matin reste possible, l'improbable réélection de Trump.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1 juste avant 8h.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Vous nous rejoignez peut-être ce matin et je reprends le dernier mot de Nicolas Bétou, la réélection possible d'un Donald Trump. Au moment où on se parle, c'est peut-être la surprise si vous nous rejoignez. Vous vous dites, voilà, c'était donné gagnant d'avance pour Joe Biden. Et si la surprise de 2016 se reproduisait? Nous surveillons, nous gardons la tête froide. Une question que je voulais poser absolument au regard de ce que vous nous expliquez, Nicolas, à Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis qui était avec nous. Et en regardant aussi ce tweet, je me permets, de notre envoyé spécial en Floride, Théo Manval, qui pose la question des shy votes. Des gens qui n'assumeraient pas de voter Trump. Dans la conversation, dit-il dans son tweet, Théo Manval, on sait très bien pour qui ils votent, on comprend leurs arguments, mais ils ne disent pas qu'ils votent pour Donald Trump. C'est ce qui s'est passé ?
Et c'est très probable, je suis à peu près convaincu qu'il y a en effet des gens qui ne veulent pas, parce qu'ils sont conscients des défaillances, des déficiences, de la grossièreté du personnage, mais qui se rejoignent, en revanche se reconnaissent dans certains axiomes, plutôt que des idées, qu'ils revendiquent de l'américanité. Parce qu'elle est multiple, l'américanité, comme toujours, c'est compliqué. Et donc, ils n'osent pas le dire, mais ils n'en pensent pas moins.
Ils n'en pensent pas moins. Je repense aussi à ce que disait David Michel, élu du Connecticut, qui disait on a vu beaucoup plus de républicains aller voter que d'ordinaire.
Et puis, dire à un sondeur je vote Trump, c'est aussi dire ou risquer de dire je suis raciste. Et donc, beaucoup de gens, effectivement, sont des shy voters parce qu'ils ne disent pas, ils ne veulent pas dire ça.
Alors que je pense que ça n'est pas le seul ressort, évidemment c'en est un qui a été zoomé beaucoup et avec de l'huile sur le feu qui a été jetée, mais je pense encore une fois que les questions économiques sont sous-jacentes et prépondérantes, elles ne sont pas timides, mais elles sont cachées.
7h58. Et tous les matins à cette heure-ci, nous retrouvons Nicolas Canteloup. Et Nicolas, nous vivons une matinale très spéciale, une matinale américaine. Et c'est Nelson Montfort qui sera avec nous tout à l'heure.
Ouais, mon cher Nicolas, cher Mathieu, ce n'est pas un shy commentateur qui est en ligne avec vous, cher Mathieu. Hello, my dear Mathieu. Good morning, everybody. Everybody, naturellement, pour ces demoiselles et ces dames. Mathieu Béliard, qui sachez-le, est au cœur, chers auditeurs, au cœur de l'actu ce matin. Je donne un petit peu les coulisses aux auditeurs d'Europe 1. On a beaucoup, beaucoup hésité à délocaliser la matinale à Washington, à New York, à Los Angeles ou à San Francisco pour finalement trancher, s'installer au 88, au IT4, qui est André Citroën, in the 15th state of Paris.
Quel accent.
Voilà, c'est pourquoi, chers auditeurs, la liaison est très bonne et le décalage horaire quasiment imperceptible. Alors, écoutez, à l'heure qu'il est, vous l'avez compris, la rédaction d'Europe 1 est totalement mobilisée depuis 5h du matin, on était un peu dans la tension. Il y a deux possibilités diamétralement opposées à l'heure où je vous parle. Soit Donald Trump gagne, c'est le soulagement pour les républicains, mais c'est le bordel et les émeutes. Soit c'est Joe Biden qui gagne, et là c'est le soulagement pour les démocrates, mais du coup, c'est le bordel et les émeutes. This is America! This is America. Don't get you slipping
now. Childish Gambino ce matin sur Europe 1. Pour finir, Nicolas Canteloup, comme quoi tout est possible. Ici, vous savez quoi, on est à Paris, mais c'est l'Amérique. 7h59, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et c'est le soleil pour nous, le soleil avec le froid, bien sûr. Alors, on en parle depuis ce matin de ces gelées qui nous ont surpris un petit peu, parce qu'elles sont quand même intenses, hein, du moins 3, moins 4 en Sologne, à Châteaudun, etc. Donc, nous avons là des températures bien, bien fraîches. Hein. Le ciel sera ensoleillé sur la plupart des régions, excepté un voile sur le Midi-Pyrénées, le Languedoc et le Roussillon, et excepté quelques nuages, mais même des nuages sur la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, la Provence et la Côte d'Azur. Voilà pour une journée qu'il faut bien retenir. Pourquoi ? Parce que ce seront les mêmes demain, jeudi, vendredi. Nous aurons exactement le même type de temps avant un radoucissement dans le courant du congé de fin de semaine.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9.
Spéciale présidentielle américaine. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h.
Quand on est plus nombreux le jour J, on remporte l'élection. Je commence à vraiment penser qu'il va pouvoir gagner.
Les États-Unis vont-ils vivre leur deuxième vague de Trumpisme ? 4 ans de plus ? Le scénario est beaucoup plus serré que ce que prédisaient les sondages. Nous serons en direct outre-Atlantique, à New York et en Floride. Les marchés financiers qui détestent l'incertitude politique sont servis ce matin, alors qu'on craint un dépouillement qui pourrait prendre plusieurs jours. Tandis qu'à l'Élysée, les équipes diplomatiques se sont préparées aux deux hypothèses. Les résultats dans ce journal, les analyses et la parole de l'éditorialiste du New York Times, Roger Cohen en direct.
Et juste après ce journal, en studio, ici à Paris, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, pour faire le point sur les conséquences de ce scrutin. Pour l'Europe, l'Union européenne, c'est nous, les relations entre les US et Bruxelles. Ou pas, avec un nouveau président, nous verrons, Joe Biden ou Donald Trump, quel que soit le résultat, il répondra, Thierry Breton, aux questions de Sonia Mabrouk, à 8h15.
Europe One. Écoutez le monde changer.
Une déclaration au milieu de la nuit dans le Delaware, 1h moins le quart, le candidat démocrate Joe Biden prend la parole, il ne veut pas risquer de se faire voler la victoire.
Nous savions, à cause du volume inédit de votes anticipés par correspondance, que cela prendrait du temps. Nous allons devoir être patients jusqu'à ce que le difficile travail de dépouillement soit terminé. Et ce ne sera pas fini avant que chaque bulletin ait été compté.
Joe Biden. Alors si l'on regarde la carte des États-Unis à l'heure qu'il est, on y voit beaucoup de rouge, couleur des Républicains, couleur de Donald Trump. Mais attention aux effets d'optique, ce sont les États pas encore colorés qui pourraient faire basculer l'élection du prochain président américain.
Xavier Yvon, en direct de New York. Tout revient au swing state et c'est là que ça se complique car c'est encore très indécis.
Oui, alors on n'est pas très avancé hein, à cette heure justement, très avancé de la nuit ici, il est à 2h du matin. Le seul État pivot qui a livré son verdict, c'est la Floride. Donald Trump conserve le plus fameux des swing states et ses 29 grands électeurs, c'était vital pour lui. L'Arizona est sur le point de basculer pour Joe Biden, ce serait le premier État clé à changer de camp par rapport à il y a 4 ans. Ce serait la deuxième bonne nouvelle de la nuit pour les démocrates puisque Joe Biden vient de gagner un grand électeur dans le Nebraska, qui est un État qui pratique la proportionnelle. Ça paraît rien, mais ce grand électeur du Nebraska pourrait peser à la fin, tellement c'est serré. Il reste encore la Caroline du Nord qui penche vers Trump, la Géorgie qu'on n'attendait pas aussi serrée. Et puis, il y a surtout ces trois États de la Rust Belt dont on parle depuis des semaines qui ont porté Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Et là, ça se complique parce que les décomptes vont prendre encore du temps avec les votes par correspondance.
Les décomptes vont prendre du temps, vous nous le dites, Xavier Yvon. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand on va devoir attendre ?
C'est toute la question. Dans le Michigan, on pourrait n'avoir les résultats que dans 24 heures. C'est une responsable locale qui vient de le dire. Elle expliquait qu'il y a eu une participation record dans cet État. Plus de 5 millions d'électeurs, dont 3,5 millions qui ont envoyé leur bulletin en avance. C'est ça qui retarde le décompte, puisqu'ils sont déjà plus longs à traiter. Et que dans le Michigan, on ne pouvait pas les dépouiller avant le jour du vote, contrairement à d'autres États. C'est aussi cette règle qui retarde le dépouillement dans le Wisconsin et la Pennsylvanie, l'État natal de Joe Biden, très importante avec ses 20 grands électeurs. Il y a déjà une procédure judiciaire lancée par des républicains dans un comté de l'État pour contester le décompte. C'est exactement le scénario qu'on évoque et qu'on redoutait depuis des semaines, ce moment de flottement où tout est possible avec des armées d'avocats qui s'affrontent. Donald Trump n'arrête pas de dire, et il l'a redit ce soir, qu'on ne peut pas attendre des jours et des jours, alors que Joe Biden, lui, insiste pour que tous les votes soient comptés avant de déclarer un vainqueur.
Xavier Yvon avec nous en direct depuis New York où il est 2h04 du matin, tout comme en Floride. Presque 2000 km plus au sud, la Floride qui, avec ses 29 grands électeurs, est dans l'escarcelle de Donald Trump.
Théo Manval, vous êtes dans la ville de Tampa, en direct, où les démocrates se mordent les doigts d'avoir laissé filer ce très grand État-clé.
Exactement, et la situation dans laquelle on se trouve ce matin suscite du coup beaucoup d'abattement. On n'a pas rempli notre mission, se désole Terry, quasiment prostré devant la télé au QG démocrate de Tampa.
On a eu peu de participation dans le comté de Miami, et d'habitude c'est un de nos gros bastions, et quand on n'est pas bon dans cet endroit, nos chiffres sont mauvais dans tout le reste de l'État. Donc je suis déçue, Biden n'avait pas besoin de la Floride pour gagner, mais Trump si. Donc on espérait qu'en gagnant ici ce soir, on mettait fin au sujet.
Bon ben bah voilà, c'est raté. Elle ne perd pas espoir hein, pour autant. Elle a bien entendu Joe Biden dire qu'il fallait attendre, qu'il s'estimait lui toujours en bonne position pour l'emporter. Mais Donald Trump, en réponse, accuse déjà, sans fondement, les démocrates de fraude. Et sans surprise, ici, ses partisans réunis reprennent en chœur ce refrain.
Il se passe des choses louches avec cette élection. Ils vont essayer de la lui voler. Mais je suis sûr qu'il arrivera aux 270 grands électeurs. Dieu va nous aider. Et on va garder notre liberté ici, aux États-Unis.
Voilà, il commence à se faire tard, 2 heures du matin ici. Beaucoup de militants des deux côtés commencent à aller se coucher. Il va leur falloir un peu de repos, effectivement, pour cette bataille électorale qui va donc s'éterniser.
Théo Manval, en ligne de la Floride pour Europe 1, où vous avez passé, Théo, la soirée d'un QG à l'autre entre républicains et démocrates. Vous l'entendiez il y a quelques minutes, Joe Biden a pris la parole cette nuit. Donald Trump a répliqué sur Twitter un message que le réseau social a carrément signalé comme potentiellement trompeur. Le président sortant annonce aussi une prise de parole. Les journalistes sont rentrés dans la salle de presse de la Maison-Blanche.
Dans la Maison-Blanche, il va prendre la parole dans la Maison-Blanche. J'en profite, Yannick Mirror est avec nous, politologue spécialiste des US. C'est normal pour un Français, ça pourrait paraître choquant qu'on se serve de l'Élysée. Pour des Américains, c'est parfaitement normal que Trump parle depuis la Maison-Blanche, y compris dans une soirée électorale.
De toutes les façons, vous savez bien que rien ne l'arrête, et même d'appeler, d'invoquer la Cour suprême comme un instrument de sa politique est quelque chose qui est dans l'indécence à laquelle il nous a habitués, même si c'est quelqu'un qui a eu aussi de bonnes intuitions au début de son mandat.
Vous ne manquerez rien. Ce matin, on surveille. Donald Trump doit prendre la parole. Et si on se passionne pour cette élection, c'est parce que l'on parle ce matin quand même de la première puissance mondiale, la première économie au monde.
Et ce résultat très serré, Emmanuel Duteil, c'est le pire des scénarios pour les marchés.
Oui, parce que ce que détestent le plus les marchés financiers, c'est l'incertitude. Si ce n'est pas plus clair dans les heures à venir, eh bien les investisseurs vont un peu tâtonner. On le voit même en ce moment sur les indices américains, le Dow Jones, qui est un peu le CAC 40 aux États-Unis. Il continue de coter une fois la bourse fermée. Et là, il est passé dans le rouge il y a quelques minutes. Et ça va se compliquer encore si le résultat de l'élection est contesté par un des camps. À très court terme, une victoire de Donald Trump rassurerait les marchés. On peut dire que c'est leur candidat. La bourse s'est envolée pendant son mandat. Il faut dire qu'il a mené une politique très pro-entreprise. Baisse d'impôts, très peu de régulation. Et ça, les entreprises adorent. Mais bon, la guerre commerciale avec la Chine, la difficulté à mettre sur pied un plan de relance pour les États-Unis et sa gestion à venir du Covid inquiète aussi sur le long terme bon nombre d'économistes américains.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. L'économie, les relations internationales aussi et les dossiers qui sont nombreux à intéresser la France de très près.
Bonjour Michael Darmon.
Bonjour.
Trump ou Biden, ce qui est sûr, c'est que l'Elysée s'est préparé aux deux scénarios.
Oui, et si Biden devait gagner, cela pourrait même compliquer certains dossiers. Un exemple, selon nos informations, des diplomates spécialistes du monde arabe ont transmis récemment leur analyse au président de la République. En cas d'élection de Joe Biden, il ne faudrait pas montrer trop d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que les pays arabes seraient très déçus du retour des démocrates à la Maison-Blanche et dans le contexte tendu entre la France et le monde musulman, eh bien ce pourrait être une difficulté supplémentaire. Voilà qui résume bien toute l'approche au sommet de l'État. Une victoire de Joe Biden, ça serait certes un changement d'ambiance, dit-on. Mais on n'a pas oublié au Quai d'Orsay à quel point Obama n'était pas sur une ligne pro-européenne. Les pro-européennes, des bras de fer entre le continent américain et européens, donc, ne sont pas prêts de s'arrêter. Avec Biden, ce ne serait pas plus facile parce que les États-Unis mettront toujours leur intérêt, effectivement, en avant. Un grand symbole du changement, ce serait le retour des États-Unis à la conférence de Paris sur le climat. En cas de maintien de Trump à la Maison-Blanche, eh bien, on a l'habitude. Avec lui, on sait que ça marche au rapport de force, derrière les sourires de façade. Au Quai d'Orsay, à l'Élysée, on martèle un principe. Les présidents passent, une chose ne change pas. Les États-Unis restent notre allié, en particulier dans la lutte contre le terrorisme.
Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Un point, un instantané sur les grands électeurs qui feront la réelle élection du président des États-Unis. On en est à 224 pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump. Il en manque donc encore une centaine à déterminer dans les heures ou les jours qui viennent. Et justement, nous sommes avec Roger Cohen, éditorialiste au New York Times. Bonjour Roger Cohen.
Bonjour.
Cette incertitude, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse ?
Je dirais oui que c'est dangereux et c'était assez prévisible. Si le résultat était serré, s'il n'y avait pas un raz-de-marée pour Joe Biden, comme certains avaient prévu. Il est certain que ce président, le président Trump, allait semer la confusion. Et cette nuit, il l'a déjà fait en disant que eux, Joe Biden, ils sont en train d'essayer de voler cette élection. Tout ce que Joe Biden a dit, c'est qu'il faut avoir de la patience. Et en effet, il va falloir avoir de la patience parce que on ne va pas avoir les résultats définitifs de la Pennsylvanie et du Michigan pour au moins encore une journée, je dirais, peut-être même plus.
Et au-delà de la patience, Roger Cohen, et du temps donc nécessaire au dépouillement, le gendarme de cette élection risque-t-il d'être la Cour suprême, dont on rappelle que 6 des 9 juges sont conservateurs, donc plutôt proches des républicains?
Oui, il peut très bien à la fin être la Cour suprême. Ça viendrait à la fin d'un processus très confus qui durerait à ce point-là des semaines. Il est difficile d'imaginer que si on arrivait à un tel scénario, que cette Cour suprême ne donnerait pas l'élection au président Trump.
Roger Cohen du New York Times, merci pour ces analyses en direct sur Europe 1 ce matin. 8h10, François Geffrier, cette élection ne nous fait pas oublier ce qui se passe ailleurs en France, ici et dans le monde.
Avec cette nouvelle hécatombe dans les hôpitaux français, 430 morts hier du Covid-19, plus de 3800 patients qui sont en réanimation. Il y a eu 36 000 nouvelles contaminations recensées hier. Le Covid qui retarde encore le procès des attentats de janvier 2015, celui-ci ne reprendra pas avant le 12 novembre. La santé de Diego Maradona à la une également avec cette opération d'un hématome sous-dural, c'est-à-dire à l'intérieur du crâne, il y a quelques heures. Il s'est réveillé et tout va bien, nous dit son médecin. Enfin, sur le terrain du FC Porto, hier soir, l'OM a enchaîné sa 12e défaite d'affilée en Ligue des Champions, 3e défaite cette saison. 3-0 pour Porto. Ce soir, Chelsea-Rennes et Leipzig-PSG, soirée spéciale sur Europe 1.
Merci beaucoup, François Geffrier. À 21h, évidemment, l'horaire Ligue des Champions. François Geffrier pour le journal de 8h. Yannick Mireur, qui nous accompagne, fondateur de la revue Politique américaine, Yannick Mireur, on a beaucoup parlé de Biden-Trump à l'échelle internationale, ce qui va peut-être plus nous intéresser, nous Français, dans les premiers mois de l'année qui arrive. Faut s'attendre à quoi? Une rupture totale, une continuité dans ce qui a été lancé par Donald Trump?
Il y aura une continuité, il y aura un héritage Trump très clair, c'est sur la Chine, c'est un héritage très positif.
Il y a un avant et un après.
Il y en a un avant, il y en a un après, parce qu'il a donné un coup de pied dans la fourmilière d'une espèce de consensus assez mou, au fond, et un peu naïf, que les Européens ont largement partagé d'ailleurs, c'est le sujet qui va arriver. Donc il y aura une confrontation, mais la différence, c'est qu'il y aurait, si Biden était élu, quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus pensé, et peut-être aussi une main tendue, une coordination vers les alliés asiatiques et européens face à la question chinoise. La rupture qu'il y aurait si Biden était élu, elle serait évidemment sur les questions climatiques, d'énergie renouvelable, de transition. Carbone.
Ce qui n'était pas le sujet de Trump,
très clairement. Aux États-Unis et au plan international, deuxième rupture, deuxième retour, probablement sur deux sujets aussi clés qui ont marqué la présidence Obama, dont, rappelons-le, Biden était le vice-président, l'Iran et les questions commerciales, notamment la structuration du commerce international en Asie-Pacifique, parce que le vide créé par les États-Unis est rempli autant qu'ils peuvent par les Chinois, selon des règles qui ne sont pas exactement les mêmes.
Yannick Mireur, merci. Je voulais qu'on en parle parce qu'on va précisément parler du commerce avec les États-Unis, de nos rapports à l'international. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'un système souvent médiatique et politique veut le voir. Donald Trump ne connaît pas le naufrage annoncé et espéré par beaucoup, et c'est même le contraire. Comment les Européens réagissent à une telle situation d'incertitude? La réaction de notre invité est importante ce matin. C'est le commissaire européen. Merci, oui Mathieu. Thierry Breton.
Première réaction de l'Union Européenne ce matin, c'est sur Europe 1, 8h13.
Europe Matin, le 7-9.
Spéciale présidentielle américaine. Mathieu Béliard.
Et avec Sonia Mabrouk à 8h16, votre invité Sonia, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.
Bienvenue et bonjour Thierry Breton.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Est-ce que vous êtes surpris d'un tel résultat serré et même en faveur de Donald Trump?
Vous savez, mon sentiment n'a que peu d'importance dans cette affaire. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'est notre partenaire commercial, notre allié. Effectivement, pour beaucoup, la révélation des résultats de cette nuit. L'Amérique est profondément divisée. Est-ce que je suis surpris de cette division? Non. Je connais bien les États-Unis et je sais effectivement que le socle qui soutient le président Donald Trump est extrêmement fort et que donc, quelle que soit l'issue, il est encore trop tôt de le dire ce matin, quelle que soit l'issue de cette élection, nous aurons affaire avec un partenaire qui est profondément divisé.
Mais disons les choses, Donald Trump a été donné, battu par tout un système, beaucoup de médias, des élites qui se délectaient même d'un naufrage trop vite annoncé. Quel que soit le résultat, et vous avez raison, évidemment, la prudence reste de mise. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que l'Amérique reste profondément protectionniste également?
Oui, je crois que l'Amérique a beaucoup changé, évidemment sous la présidence de Donald Trump, mais pas uniquement. Vous savez, l'Amérique avait commencé à changer également sous Barack Obama. On s'en souvient, on se souvient que Barack Obama ne cessait de dire aux Européens qu'ils devaient prendre leur destin en main, que désormais ils devaient accroître leur défense eux-mêmes et leurs dépenses militaires. Bien sûr, Donald Trump l'a dit avec ses mots et il a amplifié cette tendance. Et puis il faut dire également qu'en ce qui concerne les relations internationales, c'est vrai que on peut dire que Donald Trump a quelque part, d'une certaine façon, contribué à les détricoter, si vous m'autorisez à utiliser ce terme, pour replacer l'Amérique un peu au centre de son jeu, tout en ayant une relation de plus en plus tendue avec la Chine. Et cette relation tendue, guerre commerciale, certains la qualifient comme ça, va évidemment durer, quel que soit du reste
ça,
le résultat définitif
hein.
des élections.
Monsieur Breton,
il faut bien le savoir.
C'est à l'aune de cette relation, de ce regard définitivement tourné vers la Chine que les États-Unis, dont on va parler évidemment avec les Européens, mais ce matin, et quel que soit le résultat avec la prudence qui reste de mise, j'imagine les marchés également restent fébriles. Est-ce que vous craignez une situation à la contestation des résultats? Peut-être d'ailleurs par le camp démocrate s'installe avec une grande incertitude des prochaines heures et des prochains jours?
Écoutez, si on regarde à l'heure où nous parlons les résultats aujourd'hui acquis à ce stade, à cette heure, on a, je crois, 18 États qui sont en faveur de Joe Biden, 23 qui sont en faveur de Donald Trump, et on voit que les cartes, elles sont pratiquement la même que celles d'il y a 4 ans. Donc l'Amérique n'a pas beaucoup bougé sur ses fondamentaux. Et oui, on s'achemine évidemment vers une élection.
L'Amérique n'a pas bougé. Hein. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que Donald Trump,
dans son socle électoral, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc on s'achemine vers une élection qui va être extrêmement serrée, quel que soit du reste le vainqueur. Et donc vraisemblablement, puisque beaucoup de votes ont lieu par correspondance, beaucoup seront dépouillés encore dans les jours qui viennent. Il faut s'attendre effectivement, sauf évidemment surprise de dernière minute, à avoir pendant encore plusieurs heures, voire plusieurs jours, de l'incertitude. Et ça, non, les marchés n'aiment pas.
Vous connaissez bien les États-Unis, Thierry Breton, oui. Dans vos anciennes vies. J'allais dire, vous avez beaucoup travaillé, commercé avec les États-Unis. Donald Trump, il plaît encore, il plaît, alors que certains disent c'est fini, c'était terminé aujourd'hui. C'est une vraie élection des territoires et même, des territoires les plus profonds des États-Unis.
Mais vous savez, Donald Trump, il représente quand même, effectivement, ce que sentent toute une partie de l'électorat américain. Alors bien sûr, il y a son tempérament, certains vont dire également ses excès, en tout cas de langage, mais au fond, derrière, les principes de base sur lesquels il s'appuie, ben c'est quand même, on le voit bien du reste dans la carte électorale, ça représente quand même ce Middle West qui souffre, ce Middle West qui pense que cette transition, notamment cette transition industrielle, cette transition numérique qui marque tous les pays développés du continent, mais aussi du monde, eh bien cette transition, elle a un impact négatif sur eux, et donc ils se replient sur eux-mêmes. C'est ce fameux protectionisme auquel vous faisiez allusion.
Oui, et nous, Monsieur Breton, est-ce que ça peut être l'occasion? On va voir s'il y a une seconde administration de Trump ou une première administration Biden. Est-ce que c'est enfin l'occasion d'un sursaut chez les Européens? On a beaucoup dit que pour l'Allemagne, ça restait toujours un petit peu tourné vers Washington. Est-ce que ça a bougé à ce niveau-là?
Écoutez, une chose est certaine, d'abord, et je le redis, parce que les États-Unis sont un grand partenaire et ce sont nos alliés, et quelle que soit l'issue de l'élection, ils resteront nos alliés, et encore pendant de très nombreuses années et décennies, c'est certain. Maintenant, évidemment, il y a des relations notamment qui sont tendues sur le plan commercial, et puis il y avait peut-être aussi une certaine naïveté, il faut bien appeler
naïveté,
les choses,
oui.
Une certaine naïveté, et notamment de certains États membres qui s'imaginaient que finalement, il n'était pas nécessaire de prendre en main ses propres moyens de défense, parce que finalement, on aurait toujours le grand frère qui viendrait pour s'occuper de cela à notre place. Et Trump a dit, eh bien non, vous devez payer pour votre défense. Et c'est vrai aussi pour nos grands partenaires, ça a été vrai aussi, j'ai vu cette transition s'opérer avec, bien entendu, un certain nombre de pays européens qui sont plutôt situés à l'est de notre continent, ou au nord, mais ça a été vrai aussi pour l'Allemagne. Je crois qu'il y a eu vraiment une prise de conscience.
Ah,
alors, est-ce qu'elle est bénéfique?
Donc là, il y a un déclic.
Est-ce
c'est
qu'elle
important.
Est bénéfique? Elle a eu lieu, encore une fois, je l'ai dit, elle a été amorcée sous Barack Obama, amplifiée évidemment sous cette présidence de Donald Trump. Et pour nous, Européens, c'est évidemment le moment bien de réagir. C'est ce que nous avons fait, et notamment avec la commission von der Leyen, je dirais sans hésiter et sans état d'âme, en indiquant
et sans
façon,
état d'âme, plus de naïveté en tous les cas,
si
peut-être.
Si vous l'avez entendu, je l'ai dit à maintes reprises, l'Europe ne peut plus se permettre d'être naïve, l'Europe doit prendre son destin en main, et l'Europe doit assumer, dans beaucoup de domaines, une souveraineté pour être un partenaire équitable, un partenaire
ça, c'est
fiable,
un, message.
Un partenaire fort.
Important, que
évidemment,
dit le commissaire européen ce matin.
Mais aussi avec la Chine.
Mais je note sur votre analyse aussi de la carte, Thierry Breton, vous nous dites que le Middle West, c'est devenu le centre de gravité du pays, aujourd'hui, des États-Unis en tous les cas.
Bien, on verra si c'est le centre de gravité en fonction de la façon dont l'élection va basculer. Mais en tout état de cause, force est de constater qu'il n'a pas varié d'un iota par rapport à la dernière élection.
Ça, c'est très important. Avec Donald Trump, si c'est Donald Trump, restons toujours prudents, c'est aussi le retour du chacun pour soi, de l'America great again, mais toujours d'abord l'Amérique. C'est aussi cela notre défi.
Oui, mais je crois encore une fois que ces tendances-là sont des tendances assez profondes aux États-Unis. Bien entendu, c'est Joe Biden qui est élu, il y aura peut-être des relations qui seront différentes, et je dirais, entre les personnes. Mais sur le fond, voyez-vous, je le dis de façon très, très claire, très sereine, mais aussi avec une certaine fermeté. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nous estimons que nous sommes dans notre droit, et notamment des dossiers commerciaux. Nous savons qu'il y a des visions et des visées différentes outre-Atlantique, et que nous aurons de toute façon des discussions qui seront des discussions tendues. Nous sommes prêts à les mener en bonne foi, mais encore une fois, en toute bonne foi même, mais encore une fois, en étant assurés de notre bon droit. Et le bon droit, c'est aussi le droit international. Il est important qu'en ce qui concerne les relations commercial, celui-ci demeure.
Thierry Breton, monsieur le commissaire européen, j'insiste aussi sur ce qui se passe en ce moment même avec la prise de parole de Donald Trump qui dit, qui évoque en tous les cas des misérables selon lui qui veulent voler l'élection. C'est ce dont on parlait il y a quelques instants, cette incertitude qui pèse, cette épée de Damoclès, évidemment, elle inquiète, j'allais dire, le monde entier, cette incertitude.
Oui, alors, si vous permettez, enfin, encore une fois, on fait du commentaire pratiquement en temps réel, et c'est pas le rôle d'un commissaire européen, mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que au moins avec Donald Trump, il y a pas de surprise. Il annonce tout ce qu'il fait, il annonce tout ce qu'il va faire, et au fond, même si son expression a pu surprendre certains, il avait du reste clairement annoncé que il allait se mettre en situation de discuter âprement les résultats de cette élection. Ça avait choqué du reste certains. Voilà, je pense qu'il se met en situation, encore une fois, d'être extraordinairement mobilisé sur les jours qui viennent. Mais il l'avait dit, souvenez-vous, lors de son premier débat.
Exactement, Donald Trump qui dit à l'instant, ils ne peuvent pas nous rattraper.
Voilà, il avait
on
annoncé
revient.
Exactement voilà. dans ces mots. Voilà, donc.
Qu'est-ce qui démarre à partir d'aujourd'hui, pour conclure, Thierry Breton, aux États-Unis, quelle ère démarre?
De toute façon, on a maintenant cette ère de transition, donc qui est consubstantielle aux institutions américaines. Donc, on a 3 mois maintenant qui vont être ces mois de transition. Alors, ou bien, effectivement, Donald Trump est élu et voilà, ou bien on est, comme on dit en anglais, too close to call, c'est-à-dire c'est trop proche pour pouvoir trancher. Et il y aura effectivement une période d'incertitude. Elle n'est pas favorable, mais enfin, elle aura une fin. Et il faut espérer maintenant que tout ceci soit finalisé le plus rapidement possible.
C'est de notre intérêt. intérêt à tous.
Et encore une fois, eh bien, quel que soit le résultat de ces élections, nous continuerons à être ce que nous sommes et à négocier avec notre partenaire américain.
Et c'est un message très important, évidemment, dit ce matin par le commissaire européen Thierry Breton. Merci. Merci d'avoir été avec nous, évidemment, en direct.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h26. Vous restez bien sur Europe 1, cette matinée spéciale se poursuit. Les mots de Donald Trump à la Maison Blanche dans quelques toutes petites secondes.
Europe 1. Europe 1. The American Choice. Édition spéciale élection américaine. Monsieur Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, édition spéciale, un nouveau journal, il est 8h30. Hélène Zélani.
Qui de Donald Trump ou de Joe Biden remportera la présidentielle il y a 4 ans? À cette heure-ci, on avait déjà la réponse. Là, il va falloir être patient. C'est vraiment très serré. Joe Biden a été le premier à s'exprimer ce matin, se disant en bonne voie pour gagner l'élection. Donald Trump vient à son tour de prendre la parole depuis la Maison Blanche.
Je veux remercier les millions d'Américains qui nous ont soutenus, des millions de votants. Un petit groupe de gens très tristes essaye de décrédibiliser ces millions d'électeurs et nous ne le laisserons pas faire.
Voilà, Donald Trump, il y a quelques minutes depuis la Maison Blanche, qui estime qu'il ne peut plus être rattrapé. Il revendique la Pennsylvanie alors que les résultats ne sont pas encore définitifs et il conteste la victoire de Joe Biden en Arizona. Xavier Yvon, vous êtes depuis New York, notre fil rouge de cette édition spéciale. Les deux candidats se voient déjà en haut de l'affiche. Alors quelle est concrètement la situation à cette heure-ci ?
Alors, elle ne ressemble pas à ce que vient de décrire Donald Trump. Il est encore en train de parler là, donc je suis encore en train de l'écouter en ce moment. Il dit qu'il a gagné, hein, et comme vous l'avez dit, il a dit qu'il a gagné la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, qui sont des États qui n'ont pas encore livré leur verdict. Le dépouillement est en cours dans ces États-là. C'est vrai que sur les premiers bulletins dépouillés, Donald Trump est en tête, parfois assez largement comme en Pennsylvanie, sauf qu'il y a toujours le problème des votes par correspondance qu'il faut compter. Et puis, il faut savoir que dans ces États-là, la Pennsylvanie et la Géorgie notamment, il y a des grands centres urbains, des grandes villes, Philadelphie, Atlanta, dont les bulletins n'ont pas encore été comptés. Or, ça, les grands centres urbains, c'est plutôt favorable aux démocrates, donc ça pourrait profiter à Joe Biden. Donc il faut encore attendre, il faut de la patience. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Joe Biden dans son discours, lui, tout à l'heure. On attend que tous les votes soient comptés. Mais Donald Trump, qui parle encore là en ce moment, lui dit « J'ai gagné, ça ne sert plus à rien, ils essaient de tricher, ils vont envoyer des avocats. » Ce qui est sûr pour l'instant, ce qu'on sait certain, c'est que Donald Trump a gagné la Floride. Ça, c'est clair que l'Arizona est en train de basculer pour Biden. Mais pour les autres, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et la Géorgie, que Trump revendique, ça n'est pas encore fait.
Xavier Yvon à New York, on l'a dit, pas de vague bleue, élection très disputée. C'est le nombre de grands électeurs qui fera la différence. Pour l'instant, on est environ à 220 pour Biden, 210 pour Trump. Il en faut 270 pour l'emporter. Sonia Dridi, vous êtes en ce moment à Washington où il est 2h30 du matin. Quelle est l'ambiance ?
Alors, j'étais il y a peu aux abords de la Maison Blanche, hein, où il y a de moins en moins de monde, puisqu'il est clair pour l'instant qu'aucun candidat n'a remporté cette élection. Il y a en tout cas beaucoup de démocrates, notamment des jeunes, qui m'ont dit être déçus car il n'y a pas eu la vague bleue espérée. Certains sont inquiets avec cette attente pour avoir le résultat de l'élection qui pourrait durer plusieurs jours. J'ai aussi croisé quelques pro-Trump, moins nombreux, qui sont plutôt confiants. Un peu plus tôt, il y a eu quelques tensions lorsque des antifa ont défilé dans la ville et ils s'en sont pris notamment à des journalistes, mais il n'y a pas eu les violences que beaucoup redoutaient. Les rues de la ville sont ultra sécurisées, il y a des policiers à tous les coins de rue, les avenues autour de la Maison Blanche sont bloquées, on a un peu l'impression d'une ville en état de siège et c'est désormais que certains craignent des violences. Maintenant que Donald Trump accuse l'autre camp de tricher, certains craignent que dans les deux camps, eh bien, les partisans il y ait des tensions entre les partisans des deux candidats.
Sonia Dridi en direct de Washington pour Europe 1, élection suivie de très près par Emmanuel Macron grâce à l'ambassadeur de France aux États-Unis Philippe Etienne, qu'il connaît bien. C'est l'ancien chef de la cellule diplomatique de l'Élysée. Ce matin à 9h, nouveau conseil de défense à l'Élysée. Selon nos informations, la question d'un couvre-feu en région parisienne à 21h sera bien sur la table. Cette nuit, l'Assemblée a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre alors que le gouvernement souhaitait qu'il aille jusqu'à la mi-février. L'attaque l'attaque terroriste de Vienne, revendiquée par l'État islamique. Bilan 4 morts et 7 blessés dans un état critique. L'assaillant, tué par la police, originaire de Macédoine du Nord, semble finalement avoir agi seul. Et puis le foot et l'humiliation de l'OM à Porto. Défaite 3-0, 12e consécutive en Ligue des Champions. Ce qui fait perdre aux Marseillais les chances de qualification pour les 8e de finale. Ce soir, le PSG joue à Leipzig en Allemagne, sans Neymar ni Mbappé. Rennes à Chelsea en Angleterre. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Match à 21h.
Merci Hélène Zellani, 8h34. Yannick Mirror est avec nous, rédacteur en chef de la revue politique américaine, politologue. Alors, simplement, je regardais un petit peu ce que l'on répète, ce que l'on dit ce matin. Et en même temps, est-ce que c'était pas ce qu'on avait prévu ? Il faut attendre, de la patience, les résultats on ne les a pas encore. Et Trump dit, là, à 8h30 du matin, heure française, on a gagné. C'est le scénario qu'on avait écrit, ça ?
C'est-à-dire surtout que l'attente, c'était une chose, le dépouillement, etc. Mais enfin, si on voit quand même les écarts dans les États clés, comme le Wisconsin, l'Arizona penche vers Biden, mais le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, depuis 3 heures maintenant, les écarts se maintiennent à mesure que le taux de dépouillement avance. Ce qui me laisse moi penser, je ne suis pas tenu à une particulière réserve, que ça me paraît quand même cuit pour les démocrates. Et donc la question que ça soulève, c'est l'écart entre, comment dirais-je, l'évolution de la vie politique américaine, son évolution depuis une quinzaine d'années, ce qu'elle pourrait être demain, et une personnalité aussi inflammable, si je puis dire, que Donald Trump, auquel tous les excès, disons, n'apportent aucune obstacle électoral ou d'indignation publique. C'est assez difficile à comprendre, même qu'on connaît quand même assez bien ce pays. Et le paradoxe, c'est qu'il y a des plaques tectoniques, pourtant, on y reviendra sans doute un petit peu plus tard, qui évoluent sur simplement les tendances démographiques, leurs nouvelles générations, oui. Leurs aspirations sont très différentes.
Les urbains, les ruraux, la question des Afro-Américains,
sont
des Latinos.
Elles sont peut-être moins mobilisées aussi. Oui. Et donc, il y a ce contraste quand même assez extraordinaire, de même qu'il y a un contraste entre l'Amérique de la transformation numérique et des géants du numérique et l'Amérique de la campagne.
On va en parler dans quelques toutes petites minutes. Je vais appeler dans un instant Sarah Rosenblum, qui est chercheuse en sciences politiques à l'Université du Michigan. Mais d'abord, 8h36, la météo. Laurent Cabrol.
Eh bien, nous avons chez nous un petit événement, tout petit, mais enfin, il concerne tous ceux qui ne sont pas confinés. C'était un vrai temps d'hiver qui s'est installé comme ça. Il nous a surpris ce matin, entre moins 3 et plus 4 degrés de température. Rendez-vous compte, sur la moitié de la France, c'était quand même assez exceptionnel. Et puis, des brouillards par centaines et des brouillards qui se transforment en brouillards givrants vers Nevers, Alençon, Châteauroux, Rouen, Troyes, Romorantin, même en Seine-et-Marne. Bref, c'est une journée pour laquelle il va falloir apporter tous les soins que l'on peut. Dans la journée, bien sûr, le soleil va apparaître et puis nous aurons des brumes sur le Limousin, le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et des nuages sur la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et la région PACA. Ça ne change pas depuis ce matin. Là, la prévision est tout à fait confirmée. Température maximale 12 à 14 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Europe 1. Europe 1.
The American Choice. Mathieu Béliard.
Et j'appelle Sarah Rosenblum, qui est chercheuse en sciences politiques à l'Université du Michigan, en direct de Chicago. Bonjour Sarah Rosenblum.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions ce matin en direct. On essaie d'y voir clair, vous le savez, côté français. Je vais citer Donald Trump il y a quelques minutes. Nous avons gagné cette élection, nous voulons que le dépouillement s'arrête, nous irons jusqu'à la Cour suprême et nous gagnerons. C'est pas une question, Sarah Rosenblum. Ça vous inspire quoi ?
Je vous cache pas, je suis assez fébrile et anxieuse. Donald Trump n'a pas caché le fait que la précipitation avec laquelle il a fait nommer et confirmer la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême avait pour objectif explicite de renforcer la majorité conservatrice à la Cour suprême si les élections étaient contestées dans le cadre d'un litige électoral. Et c'est effectivement ce qu'on redoute, c'est un scénario de type Gore v. Bush, ce qui s'est passé en 2000, lorsque le résultat des élections en Floride était contesté et que la Cour suprême a tranché en faveur de Bush, lui permettant de remporter l'élection.
Mais pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Permettez-moi cette question, quand on dit qu'on ira jusqu'au bout, la Cour suprême, qui a peut-être son volet partisan avec la nomination d'Amy Coney Barrett, pourquoi est-ce que ça vous inquiète ? Ce qui est surprenant, finalement, quand on se réveille côté français, c'est que nombre d'Américains ont voté pour Trump et que les États clés où on attendait des résultats indécis ne sont pas si indécis que ça, pas pour tous en tout cas.
Effectivement, on s'attendait à une vague bleue, comme vous l'avez dit précédemment, d'autant plus que cette élection s'inscrit dans un contexte en particulier, on le sait, qui est celui de la crise sanitaire, et qu'il y a quelques jours encore, les sondages indiquaient que 57% des personnes interrogées désapprouvaient Trump sur sa gestion de la crise sanitaire, que 57% des sondés également disaient avoir plus confiance en Joe Biden qu'en Trump pour lutter contre la pandémie, et que en fait c'est le contexte sanitaire allait influencer le vote et allait se traduire par potentiellement une victoire pour Joe Biden. Ce n'est pas ce que l'on observe à l'heure actuelle, et c'est ça qui est assez surprenant.
Mike Pence, plus mesuré, hein, qui a pris la parole ensuite, le vice-président américain, colistier de Donald Trump, un peu plus mesuré, chaque voix compte, disait-il. Alors vous l'avez évoqué, la crise sanitaire, on a beaucoup dit que Donald Trump paierait, malgré de bons résultats économiques ou sur le front de l'emploi, paierait cette crise sanitaire et sa gestion de cette crise sanitaire. Finalement, on n'a pas le sentiment d'un vote lié au Covid ce matin. On voit que les Républicains se sont mobilisés aussi.
Effectivement, les Républicains se sont mobilisés sur les questions liées à l'économie. Alors, depuis le début de la campagne, Joe Biden a fait du coronavirus l'un de ses principaux thèmes de campagne. Il a présenté la crise comme le révélateur des dysfonctionnements de l'administration Trump, comme le signe du manque d'empathie et de l'incompétence du président. Et Trump, de son côté, a dénoncé l'importance, selon lui, accordée à l'épidémie par les médias dont il pense qu'ils veulent lui nuire, compromettre sa réélection, ce qui est évidemment faux. Mais effectivement, Trump, lui, a davantage parlé d'économie et de rouverture du pays plutôt que de gestion de la crise sanitaire. Et apparemment, effectivement, ses soutiens auraient voté pour lui en raison de son positionnement en matière d'économie et de réouverture un peu précipitée du pays dans un contexte où la situation sanitaire s'aggrave au jour le jour.
Hein. Alors, il y avait peut-être, pardonnez-moi, ce côté accident de l'histoire en 2016, en tout cas cette surprise. Si ça se confirme 4 ans après, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Permettez-moi, on parlait du protectionnisme un peu plus tôt dans cette émission. On parlait des envies, des aspirations peut-être des Américains qui auraient évolué. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue en ce moment, on dirait.
Effectivement, mais ça ne se joue pas en 2020. C'est une tendance des États-Unis depuis plusieurs années maintenant, qui est celle d'une polarisation croissante de la société américaine autour de deux pôles vraiment qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Et Trump a des soutiens. Des millions d'Américains ont voté pour lui, lui sont favorables. C'est un vote d'adhésion que l'on est en train d'observer aux États-Unis. Ce n'est pas un vote contre Biden, mais c'est bien un vote qui exprime des positions favorables à Trump, à ce qu'il incarne en matière d'économie, en matière d'isolationnisme, en matière de protectionnisme, en matière migratoire également. Et effectivement, c'est une polarisation accrue de la société américaine dont on voit un petit peu l'issue aujourd'hui, bien qu'il faille rester prudent et que cette élection n'est pas terminée, qu'un certain nombre de bulletins n'ont pas encore été comptabilisés, bien sûr.
Yannick Mireur.
Oui, au fond, ce qu'on observe, c'est que le message, peut-être, si on devait analyser les choses, le message de Trump, il est très clair. La priorité est à l'économie, à une vision du monde, alors que les choses étaient sans doute beaucoup plus confuses, assises sur des contradictions, des divisions au sein du Parti démocrate qui sont anciennes, et la priorité sous-jacente à des questions plus culturelles ou morales ou de valeurs était au fond des préoccupations économiques pour lesquelles il y a une confiance, un bonus de confiance à Donald Trump, semble-t-il, si on doit conclure les choses, quoi qu'il arrive dans les prochaines heures.
On va attendre, rester patient évidemment. Sarah Rosenblum, merci beaucoup, hein, chercheuse en santé publique chercheuse en sciences politiques à l'Université du Michigan, en direct de Chicago, 8h42. Écoutez bien, sur Europe 1 ce matin, c'était Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, il y a moins d'un quart d'heure.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Nous avons gagné cette élection.
So our goal now is to ensure the integrity.
Nous voulons que le dépouillement s'arrête. Nous irons jusqu'à la Cour suprême, dit Donald Trump.
This is a major fraud in our nation.
Et nous gagnerons.
We want the law to be used in a proper manner.
Nous voulons que la loi soit utilisée de manière convenable. 8h43 sur Europe 1, on revient dans quelques secondes. Cette matinée spéciale se poursuit, mais il y a quelques piliers qu'on ne bouge pas, y compris dans une matinée spéciale. La revue de presse de Nicolas Canteloup dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Spéciale présidentielle américaine. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard, on ne s'en lasse pas, pour le titre principal de l'actu.
Ouais. Hi, my dear Julie. It's Mathieu Béliard from Urbain. The new of the day, c'est l'élection américaine, oui, vous l'avez compris, je reprends ma langue maternelle. Et chers auditeurs, Vous êtes perdu. Je vous comprends un petit peu, mais rassurez-vous. Nous allons sur Europe 1 tout vous expliquer. C'est assez simple. Si Joe Biden l'emporte dans la Pennsylvanie et que Trump perd le Connecticut, c'est ce que nous disait notre envoyé spécial, même si c'est vrai qu'il faut attendre les résultats du Michigan, eh bien, il faudra attendre les résultats de la Caroline du Nord. Autre exemple, l'Ohio. L'Ohio peut tout faire basculer si jamais Trump l'emporte, mais comme l'Ohio n'a jamais fait remporter une élection depuis 106 ans, on a parlé avec notre envoyé spécial, y compris avec des grands électeurs, il faudra se reporter sur la Floride et l'Arizona qui ont fait passer les républicains démocrates. Vous voyez, c'est... Oui, mais quand on prend une vision globale et qu'on prend un peu de hauteur, c'est assez simple. Et puis, l'autre news of the day, c'est le duel entre Trump et Biden qui pourrait ne pas être tranché avant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Oui, c'est la même info, en fait.
Ah oui,
C'est fou d'attendre aussi longtemps pour avoir un résultat. C'est dingue. C'est... En fait, cette élection américaine, c'est pas une élection présidentielle, c'est un test PCR.
Très bon.
Alors, la dernière info, the last news of the day, c'est la liste des produits non essentiels. On va revenir un petit peu en France, parce que ça nous occupe aussi. C'est la liste des produits non essentiels qui a été publiée et seront retirés des rayons des supermarchés. Ça va être sympa, Noël, Christmas, cette année.
Oui.
Hein, un flacon de shampoing pour la petite, un chou-fleur pour le petit et du pain de mie pour ma femme. Voilà. Au moins, je ne sais pas si ça leur plaira, mais on fera des économies.
Très glamour ce Noël. Allez, merci Mathieu. On ne sait toujours rien du résultat final des élections américaines. C'est très, très serré. Joe Biden a pour l'instant une très courte avance. Jean-Michel Apathy, si c'est Biden, ça va changer quoi en termes de politique internationale?
Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Elle me demande ce que ça va changer, mais elle est folle celle-ci. Mais ça va tout changer, tout, ma chère Julie. Les échanges commerciaux avec la Chine vont reprendre. Les accords de Paris sur le climat vont reprendre. Il n'y aura plus de vente d'armes. Robert De Niro va refaire des bons films. Le coronavirus va s'arrêter. On va fêter Noël normalement. Kinvé ne sortira plus de disques. Mes cheveux vont repousser. Tout va changer.
Vos cheveux vont repousser.
Tout va changer.
Mais dites-moi, vous êtes sûr que ça a un lien avec Donald Trump, là, tout ce dont vous parlez?
Écoutez, en attendant, les journalistes... Non, c'est vrai. Les journalistes, j'avais l'impression que tous les mots de la Terre venaient de Donald Trump. Donc, maintenant qu'il dégage, logiquement, d'après tous les mêmes journalistes, c'est le retour des 30 glorieuses.
Eh bien, on l'espère tous. Merci beaucoup, Jean-Michel. Il y a quelqu'un qui connaît bien, qui a bien connu Joe Biden, car il a travaillé avec lui quand il était vice-président des États-Unis. C'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir, quelque part, un peu dans un endroit qui est un peu ma radio, quelque part. Merci de me... J'ai envie de dire merci de me welcomer, comme
bien,
on dit à Washington.
Oui, bien, Washington.
Vous savez, quand vous m'avez invité sur votre plateau, j'ai tout de suite dit oui.
C'est commenter la vie politique qui vous manque tant?
Non, j'ai tout de suite dit oui, non, parce que c'est pour avoir l'attestation de travail et pouvoir me barrer de chez moi. Non, parce que Carla qui chante 20 heures sur 24, c'est pas facile à vivre.
Alors, vous avez travaillé avec Joe Biden de 2009 à 2012, hein, quand il était vice-président d'Obama. Comment vous l'avez trouvé à l'époque?
Comment je l'ai trouvé? Vieux.
Déjà?
Oui, déjà à l'époque, il était très vieux, ce monsieur, il faut le savoir. Hein, je me souviens, je vais vous parler d'une anecdote, je me disais tout le temps quand je le voyais, mais c'est qui ce vieux monsieur à côté d'Obama? Je me posais la question, je me disais, c'est quand même pas son grand-père.
Oh, Barack Obama, qui était à ses côtés cette semaine hein, dans un gymnase et qui a marqué un panier de basket. Hein, on a vu un panier de basket à 3 points d'ailleurs, une vidéo qui a fait le tour du monde. Vous avez déjà joué au basket, vous?
C'est très drôle comme question, même Julie. Très marrant, ça vaut l'Europe en ce moment. Hein.
Bon, alors, parlons d'autre chose. Un mot de votre mise en examen, par exemple, pour association de malfaiteurs.
Vous êtes sûr que vous voulez vraiment parler de ça? C'est parce que c'est pas l'actu, on peut parler basket. Ou vous voulez pas qu'on parle plutôt de foot? Voilà.
Si vous voulez, allez, un livre vient de sortir et qui dit que vous êtes à l'origine du rachat du PSG par le Qatar, pays dont vous êtes très proche, hein, et qui est soupçonné de financer le terrorisme.
Oui, bon. Hein? Bon, donc, qu'on cause foot, politique ou météo, j'ai toujours une affaire au cul, c'est ça que vous voulez dire.
C'est pas de notre faute, hein, on va vous laisser. Merci, M. Sarkozy.
C'est plus comme avant, Europe.
Toute la nuit, BFM TV a suivi la présidentielle américaine. Marc-Olivier Fogiel, vous dirigez la chaîne. Bonjour. Marco? Marco, on est en direct. Marco? Marc-Olivier?
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oui.
Pardon, Julie.
Oui, bah oui.
Ah, excuse-moi. Non, j'ai eu un coup de barre. Hein. Je suis claqué. Hein. Donc toute la nuit, je me suis fadé leurs élections aux Américains, à compter les résultats. Texas, 3 grands électeurs. Wisconsin, 12 grands électeurs. Non, c'est plus une présidentielle, c'est l'Eurovision leur truc. Ah, franchement, Alabama, 4 points pour Donald Trump. Minnesota, 20 points pour Joe Biden. Non, bah, c'est une compète de patinage artistique.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce duel Trump-Biden?
Bah, ça annonce rien de bon pour les États-Unis et pour le monde. Quand tu te dis que sur 330 millions d'habitants, d'Américains, les deux meilleurs, l'élite de l'élite, c'est ces deux-là. Ah, si, c'est deux-là, Trump et Biden. C'est ce qui se fait de mieux. Imagine le niveau des autres. Ah non, ça fait peur pour la suite.
Hein. Bah, c'est une bonne analyse, finalement. Merci, Marco.
Bah ouais, finalement, je dis pas que des conneries.
Ah, finalement. Le duel Trump-Biden ne prendra probablement pas fin aujourd'hui. La compétition va rester féroce hein, jusqu'au bout.
Oui, ma chère Julie, une fantastique compétition, un match de titans a eu lieu pendant cette campagne.
Nelson.
Dans le coin gauche, Joe Biden, 77 ans, le grabataire démocrate, le François Bayrou du Delaware, le favori de cette élection. Et puis dans le coin droit, Donald Trump, qu'on ne présente plus, 74 ans, 74 de QI, 74 procès au cul. Une belle cohérence pour le Vladimir Poutine américain, pour le Marine Le Pen à testicules. Et cette question, qui désormais va pouvoir prétendre au titre suprême?
Le titre suprême. C'est président américain, c'est ça?
Non, cher Julie, ne faites pas erreur. Le titre suprême, c'est dirigeant le plus grotesque du monde. Titre qui nécessite d'être à la fois imbu de soi-même, magouilleur, incompétent, tyrannique et idiot. Donald Trump avait ravi ce titre à Silvio Berlusconi en 2016, qui lui-même l'avait dérobé à Mobutu. Et là, c'est vrai que le président turc Erdogan est placé en embuscade pour ravir cette médaille de la plus grosse tête de con mondiale. Joe Biden est totalement décroché de Kim Jong-un. Le Nord-Coréen est bien placé, ainsi que l'outsider, le roi de Thaïlande, vous savez, celui qui s'était confiné en Allemagne dans un hôtel avec des gonzesses. Encore quelques heures et nous serons fixés, nous coronnerons donc le roi des cons, à vous Paris.
Merci Nelson. Il a oublié Bolsonaro, en fait. Allez.
Au passage.
Boum.
Elle est pointue.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé hier un couvre-feu en plus du confinement, mais Matignon a démenti dans la foulée. On est avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour.
Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Bayard, Monsieur Caprol, toute la rédaction. Et permettez-moi de réagir à l'actualité et de féliciter Donald Trump et Joseph Biden. Oui, pour leur éventuelle élection, vu qu'on n'en a savoir rien. Donc, hello, permettez-moi de leur dire un mot dans leur langue maternelle. Hello and congratulations. La science, to you, for your election, Donald Trump, Joseph Biden, if you gagne. Comme ça, voilà. Les deux sont faites. Vous voyez que je sais m'avancer dans mon travail. Et excusez-moi, parce que je suis un peu encore dans les dossiers sur les petits commerces. Les librairies doivent fermer leurs librairies, ça c'est cohérent. Les fleuristes doivent fermer leur floristerie, c'est cohérent. Gabriel Attal doit fermer sa gueule, c'est cohérent, parce que sinon, il annonce n'importe quoi.
Mais c'est pas à l'étude, si?
Et cette infirmerie, ce confinement couvre-feu, mais ça devait être une surprise. Et là, je dois dire que Gabriel Attal a tout gâché.
Donc vous y pensez bel et bien au couvre-feu, alors?
Madame Julie, pendant cette période du confinement où les Français ne doivent pas sortir, c'est vrai que je réfléchis à un couvre-feu pour qu'ils sortent encore moins que pas du tout. Cette mesure, bien sûr, sera débattue, évidemment.
Mais par qui?
En bonne et due forme.
Par qui?
Par Emmanuel Macron, tout seul, comme d'habitude.
Ah. Bon, mais vous comprenez qu'on n'y comprend plus rien, justement, hein?
Écoutez, c'est pourtant très simple. Chaque citoyen, je le dis à vos auditeurs, ne pourra pas sortir, sauf bien sûr, arrêté municipal, à condition qu'il ne soit pas retoqué par le préfet, à condition, bien sûr, de disposer en bonne et due forme sur soi une
attestation.
Sauf, bien sûr, vous l'aurez compris, en période de couvre-feu dans les départements où le taux d'incidence est en hausse. Pour autant, oui, Monsieur Béliard, je vois que vous suivez.
Qui suit, oui.
Sans pour autant subroger au reconfinement, sauf pour les départements indispensables, y compris les commerces non essentiels, ayant mis en place avec l'aide et le soutien du ministère du Commerce un dispositif de clink and collect dans les horaires prévus.
Oh là là.
J'étais d'ailleurs, vous souriez, mais j'ai d'ailleurs été sollicité pour organiser les prochaines élections américaines.
Bravo, c'est bravo cohérent, Nicolas Cantelou et Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe 1.fr. 8h57, je vais passer la main à Philippe Vandel, mais pardonnez-moi parce que, allez-y, je vais vous dire la vérité Philippe, ça me démange. Yannick Mireur est en studio avec nous, politologue, spécialiste des États-Unis. On ne connaît pas le prochain président des États-Unis. Vous tentez un pronostic, vous?
Si je dois en faire un, écoutez, malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence que M. Trump est bien parti pour repartir pour 4 ans.
Énorme surprise cette nuit, la surprise que le scrutin soit si serré. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant pour l'instant, si ce n'est peut-être les sondeurs. Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue.
Et bien justement, bon enchaînement, on va revenir sur cette élection américaine, mais nous à la lumière des médias. On va analyser le scrutin, on sera avec un spécialiste des réseaux sociaux et des fake news, Thomas Huchon. Puis on sera avec Mélissa Bell, la correspondante à Paris de CNN. Il s'est passé un moment fort, il y a une demi-heure. Donald Trump qui parlait, qui annonçait des choses, a été coupé en direct par NBC et retoqué par CNN et par Fox News parce qu'il disait des choses fausses, notamment qu'il avait gagné des États comme le Wisconsin, alors que le dépouillement n'est même pas terminé. On n'avait encore jamais vu ça. Et puis enfin, un romancier amoureux des États-Unis, star du polar, Maxime Chattam. Son nouveau roman, L'Illusion, sorti la semaine dernière, déjà parmi les meilleures ventes.
Culture Média à suivre, l'info à 9h. Évidemment, vous restez bien sur Europe 1. Moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.